propose de faire un petit tour de table afin de se présenter. Puis aussi de dire finalement qu'est-ce qui vous amène ici, qu'est-ce que vous espérez de cette rencontre, et aussi, selon vous, c'est quoi les principaux enjeux que peut connaître le reste de l'âge, quelles sont finalement vos principales préoccupations par rapport au reste. Je vous laisse commencer.
Moi, c'est Denis Saint-Claire, je suis résidente de la Collège depuis 3 ans. Puis, j'ai mon follow-up de formation, puis je suis ici par curiosité. On est toujours sur le lac avec mes filles, puis je vois des espèces envahissantes, tout ça, je sais. J'aimerais connaître l'état de santé du lac.
C'est beau.
On a encore un coup,
ça va.
Mon nom est Bruce Wallace. J'habite ici depuis 35 ans et je suis venu par intérêt. J'ai déjà été conseiller municipal ici et c'est une histoire qui monte à très longtemps et il y a des études avec l'appel qui a changé de nom par la suite et on a toujours eu à se préoccuper de cette situation-là. Alors, donc, je voulais voir où on était rendu. Et je suis venu aussi parce qu'elle faisait. Il pleuvait, donc je ne vais pas travailler dans mon jardin.
Bonjour, Monique Beaulac. Quand on vit ensemble, j'en ai entendu parler du lac quand il était au conseil, mais aussi on a eu des mouvements qui ont été faits à un moment donné, essayer d'arracher les mériophiles, ces choses-là, pour s'apercevoir que c'est pas comme ça. Donc, savoir où c'est rendu, c'est bien, parce que les gens qui vivent ici, c'est pas pour dire, ils viennent pour le lac. Hein? On vient parce qu'il y a un beau lac, tu, comme on est pour le lac. Donc, c'est savoir où c'est rendu, puis où ça s'en va.
Gabriel Marceau, dans le fond, moi je suis de Stonard, mais je travaille avec André ici à côté depuis les tout débuts. Puis même chose, ça m'intrigue de savoir c'est rendu où, les enjeux, des choses comme ça, bien par curiosité.
Moi, c'est Anne-Catherine, je suis résidente au lac depuis 10 ans, 11 ans. Puis aussi par amour du lac, parce que quand je vois des myriophiles qui flottent sur le côté, je ne sais pas si c'est correct que je les enlève pour pas qu'ils reprennent racine. Pour savoir qu'est-ce que moi je peux faire, où est-ce que ça s'en va, qu'est-ce qu'on peut faire aussi en collectivité. Puis,
Salut, Thibaut Dessiter, moi je suis résident du lac. Puis moi je suis biologiste de formation, donc c'est le genre de choses qui m'intéressent énormément. Puis c'est ça aussi, comme tu disais, je m'intéresse à savoir s'il y a des mouvements de sciences citoyennes ou quelque chose qui peuvent se passer, des projets qui peuvent pousser comme ça dans le futur ou pas là. Donc c'est ça, pour ça que je suis ici.
Très bien. François?
Bon, citoyen depuis 35 ans. Aussi. Ça passe vite, hein? Évidemment, j'étais président de l'appel, alors finalement, j'étais au cœur de toutes ces questions d'environnement. J'ai aussi monté un groupe d'environnement au lac de l'Âge. On a fait des tentatives pour essayer d'enrayer le myriophile qui était excessivement envahissant à ce moment-là. D'ailleurs, j'avais organisé une séance de rabasca avec le conseil municipal pour vous montrer à quel point on était rendu une soupe au pot. Ça s'est amélioré en passant. Parce que c'était le festival Fertisol ici, là, tout le monde voulait des pelouses extrêmement belles. Et ben, ça allait dans l'air. Fait qu'il y a eu un règlement qui a été passé pour enrayer cette question. Et puis, la question de la galère m'a toujours préoccupé. Puis, effectivement, là, ça fait partie de mes champs d'intérêt.
Parfait. Est-ce que vous avez quelque chose Non?
Bon, on peut juste se présenter ouais. Si jamais, mais c'est sûr qu'il y a pas mal de monde qui savent mon équipe, mais c'est pas grave. On est fin de l'enregistrement. José Desmeules, directeur général, puis je suis avec notre directeur des travaux publics, Sydney. Évidemment, on est toujours en collaboration et on travaille en équipe là, pour la protection du lac. Et je suis issue de. J'ai travaillé dans plusieurs villes avec des lacs, fait que lac identique, je connais bien les préoccupations des citoyens là, par rapport à la santé d'un lac. Puis là, avec le lac Saint-Joseph, le lac Beauport. Je ne sais pas si vous venez au courant un peu de ce qui se passe, mais c'est la détérioration des lacs, ça ne revient plus. Là, ce qui est fait, c'est comme un peu la santé, là, le mal qu'on a fait dans le passé, ça paye plus tard. Et puis, je vous dirais qu'on le voit de plus en plus, puis c'est très préoccupant. Puis, je vous dirais que l'engueulage est très préoccupant hein, aussi pour apporter là, des mesures, puis des interventions concrètes là, pour la protection du engueulage.
Très bien. Mais est-ce que moi me présenter? Maxime Wautier. Je travaille chez Agiro Grand depuis 2 ans.
Sydney, oui, c'est ça. J'avais présenté Sydney, mais peut-être qu'il
n'y a pas de problème. Je crois que j'ai des travaux publics, mais le évidemment que le lac, c'est la valeur habitée de la ville, et on n'a qu'une, on n'a qu'un. Fait que tous les jours, on fait en sorte les travaux publics pour essayer de.
C'est sûr qu'il y a le cellulaire à Sonia, là, parce qu'il travaille beaucoup en collaboration avec Sistine, Sonia, etc. Là, donc, entre autres, l'efficacité des cellules. Puis, je vous dirais que.
Il y a beaucoup de citoyens qui m'appellent, qui constatent des choses. Ils appellent pour aller dire Sonia, j'ai une chose là qui se promène en parallèle. Ça arrive quelques fois dans l'été, c'est surtout cet été. qui ont observé des choses, puis tout ça. Je pense qu'il y en a beaucoup qui s'il y en a 10 qui nous en plaît, ça veut dire qu'il y en a au moins, qu'il y en a peut-être le grip qui s'en occupe, et, c'est encourageant. C'est en équipe qu'on va réussir. C'est l'équipe, le mot c'est l'équipe.
Il y a marqué au pluvial, mais ça fait partie aussi de la protection du lac pour les municipalités parce que l'eau de ruissellement cause énormément de sédimentation, etc. Fait que c'est ce qui va probablement expliquer aussi. Là, c'est une grosse préoccupation aussi là, parce qu'on est en pente partout. Puis tout descend évidemment vers le lac. Là, fait que c'est sûr que, effectivement, l'eau pluviale, c'est assez pertinent. Là, on a parlé pas mal la dernière année.
Il faudrait ajouter à ton tableau eau potable aussi.
Oui.
On est à la tête d'un bassin de réservoir d'eau potable. J'ai oublié de dire que j'ai été pendant 3 ans et demi conseiller spécial auprès du maire Labeau, mais de la CMQ pour la protection des sources d'eau potable. On a un valeur à dire.
Ça aussi, ça se rajoute sur les.
Sur l'ensemble de l'œuvre.
L'ensemble de l'œuvre,
ouais.
Ça devient complexe.
Oui.
Absolument. Bonjour. On a mis des gens à se planter, à faire un petit tour de table. Il y a tout ça à notre tour.
OK. Tu dis ton nom.
Ah, OK, mon nom est Jacques Mélan. On est au 14 du Rocher. Puis, qu'est-ce qu'on a dit pour ça?
On a un bon événement à
partir.
On est les premiers à voir justement les photos de service. C'est nous les premiers. Après ça, c'est tout le reste du Rocher. C'est ça. Mais il est très en part.
Peut-être un petit commentaire quand même. Oui. J'ajouterais quand même. Nous, on s'est acheté un tapis, un bottom bracket. Un tapis à lac. On l'a installé sur le lac cet été.
Dans le fond du lac.
Pour justement enlever
les herbes.
Les herbes, exactement.
Ça fait 2 étés, combien? C'est un tapis de combien?
30 pieds par 10 pieds.
Selon vous, c'est quoi le principal enjeu slash problématique que connaît le lac de l'âge? Votre avis, c'est quoi le principal problème que vous avez en tête quand vous pensez à la santé et à l'état du lac de l'âge? Très bien, ça va déjà été mentionné.
On a fait le tour.
Donc il reste moi, donc Maxime Wautier. Donc ça fait 2 ans et demi que je travaille chez Agiro. Ma formation, c'est une formation en biologie et elle est vraiment plus spécialisée sur tout ce qui concerne l'eau. Les écosystèmes aquatiques, mais vraiment l'eau douce, donc lacs et rivières. Donc chez Agiro, c'est moi qui suis en charge de mettre en place le programme de suivi qui a été élaboré en collaboration avec la Ville de Québec. Donc le programme de suivi de tous les sous-réseaux finalement dans le haut bassin versant de la prise de potable de la Ville de Québec. Ce qui inclut donc le lac de Lauche. Et à ce titre-là, justement, la Ville va les mandater, fait plus ou moins en 5 ans, de réaliser un bilan de santé du lac de Lauche. On l'a fait donc l'année dernière en 2022. Le bilan de santé, il a juste été publié il y a quelques jours. Il est disponible sur notre site internet. Pour ceux qui s'intéressent. Dedans, effectivement, on présente effectivement l'état actuel de la santé du lac de Lauche, mais également nos suggestions, recommandations pour l'améliorer, voir où on peut agir, etc. Notez d'ailleurs que ce bilan de santé, c'est vraiment un bilan de santé un peu comme qu'on voulait chez le médecin, à savoir on fait une prise de sang et on voit c'est quoi les différents. Différentes mesures, différents paramètres que vous avez pour plein de critères, est-ce que votre corps va bien, est-ce que votre corps va bien. Mais il n'a pas été conceptualisé pour vraiment mettre le doigt sur les causes précises de la problématique. Si, mettons, on voit, au niveau de la biologie de l'être humain, si le cœur va mal, ça peut être pour plein de raisons. Ce rapport évoque les raisons les plus courantes, mais on ne peut pas dire avec certitude c'est telle raison qui provoque le plus ce problème. Donc, ça, c'est pour vraiment garder ça en tête que. Très souvent, un lac, ce qui le dégrade, c'est multifactoriel. Il y a plusieurs choses qui entrent en compte. Et pour le coup, on ne peut pas vraiment séparer la cause principale de la problématique. Je propose d'aller point par point avec ce que vous avez apporté. Et à la fin, je pourrais vraiment vous parler plus en détail de c'est quoi l'état de santé du lac de Lauche au vu de tous ces contextes-là. En commençant effectivement par les espèces exotiques envahissantes. Et donc, pour votre lac, le plus important, c'est le myophile aépique. Qui effectivement là depuis quoi, 90, je dirais, à peu près. Qui s'est bien répandu après la Rive Nord et le lac Saint-Jean par la suite. C'est une espèce envahissante qui effectivement n'est pas très belle, qui prend beaucoup d'espace, mais qui est, quant à moi, problématique, mais pas non plus la pire chose qu'on peut avoir sur un lac, parce que le VLP, c'est vraiment surtout une manière esthétique que ça pose problème. Mais pour la santé du lac, c'est pas tant problématique que ça. Souvent, il y a la question de savoir est-ce qu'on veut vraiment lutter efficacement, est-ce qu'on veut vraiment arriver à éradiquer le myophile aépique. Outre le fait que c'est un combat qui est extrêmement difficile, voire quasiment impossible, le mieux qu'on puisse faire en général, c'est la contrôler, mais l'éradiquer complètement, c'est quasiment impossible. Mais c'est surtout le fait que quand on fait ça, on n'a pas le choix de prendre des mesures canon. En gros, ça veut dire quoi? C'est qu'on met des bâches sur toute la surface du lac où la profondeur est suffisante pour que le lac pousse, donc on parle jusqu'à 10 mètres de profondeur. Et que même en faisant ça, le problème c'est qu'on va également tuer toutes les autres plantes qui sont présentes dans le lac, on va également tuer toute la faune qui vit dans le fond du lac finalement. Et ce qui fait que le lac à ce moment-là, ça devient un terreau idéal pour des efflorescences et des bactéries, parce qu'il n'y a plus rien qui peut arrêter les efflorescences d'apparaître. Et donc, moi, souvent, je fais l'analogie entre la grippe et le choléra, je préfère la grippe. Ma vie étant la grippe et le choléra étant les cyanobactéries. Donc, pour moi, c'est un peu un. Est-ce qu'on veut vraiment s'embarquer là-dedans dans ce combat-là? Moi, je ne recommande pas, parce que c'est un combat qui est extrêmement difficile. C'est plus d'arriver finalement à vivre avec. Et pour ça, il y a plusieurs moyens de vivre avec. Déjà, la première chose, effectivement, c'est essayer d'éviter d'aller dans les zones où il y a de la myophilie. Parce que quand on va dans les zones avec des bateaux, des embarcations, on brise les filaments qui agrandit le risque que celle-ci se répande dans le lac. Parce qu'en fait, le myophile aépi, c'est pas une plante. Elle peut faire des fleurs, mais la plus souvent, sa reproduction, c'est par son dégradant en petits morceaux de myophile aépi, finalement, qui après vont être emportés par le courant, vont ailleurs, ils vont pousser ailleurs. Et donc, un simple petit filament de myophile aépi peut créer une nouvelle colonie, un nouvel herbier ailleurs dans un lac, ou ailleurs dans une portion d'un même lac qui est déjà colonisé. Donc, c'est vraiment plus la laisser tranquille, ne pas les arracher, parce qu'en les arrachant, justement, on va créer plein de petits filaments qui vont après se rendre partout. Et pour les gens effectivement qui disent c'est embêtant parce que devant chez moi, justement, comme vous, je pense, vous avez plein de myophiles aépiques qui vous empêchent de sortir pour passer devant, effectivement, la solution, c'est de créer effectivement des tapis, enfin de mettre des tapis pour qu'il y ait une zone dans laquelle vous pouvez passer avec vos kayaks, vos embarcations, sans devoir arracher des myophiles aépiques. Vous mettez un tapis et ça crée une sorte de chenal finalement qui est dépourvu de plantes que vous pouvez utiliser, mais le reste, par contre, personnellement, je ne toucherai pas. Oui.
Moi, je pose la question, est-ce que ce serait pertinent de le faire au quai des citoyens? Parce qu'on passe au travers à chaque fois que quelqu'un part à la nage, quelqu'un part au kayak, qu'on passe au travers, une zone.
Ce serait une question à se poser, effectivement. Ouais, peut-être une bonne idée. C'est sûrement une idée.
C'est sûr que ce qu'on veut éviter, puis durant les compétitions, mettons, etc., là, quand les pieds rentrent dans la loupe, ben, c'est sûr, évidemment, on veut un tapis pour éviter que les pieds arrachent, parce que plus on les arrache, plus ils reviennent à la puissance 10. Fait que c'est sûr que dans les secteurs où ce que les gens, mettons, ont peut-être à se baigner ou à les arracher avec les pieds ou le mouvement humain, ben, peut-être que là, on se pose la question là, si on pouvait mettre un tapis. Mais encore là, c'est les profondeurs, c'est de voir les distances, mais on parle du secteur de l'entrée où les canaux kayak sont là. Peut-être qu'il y aurait un secteur où on est en train de regarder ça là, pour idéalement mettre un tapis pour éviter là, justement qu'on les arrache quand on passe avec la circulation humaine. Ouais. Ça, on est là-dessus. On regarde aussi avec les possibilités puis le rapport coût-bénéfice. Mais je pense qu'effectivement, c'est des choses qu'il faut regarder là, dans un avenir approché.
Peut-être pour dire, mais dernièrement, j'ai fait le tour du lac en kayak pour aller voir. C'est clair que les engrais ont joué un rôle majeur ici. Pour vous rappeler, les années, je me suis fait en Canada, festival, il y avait sur des rochers, un des camions, Fertisol avait carrément échappé tout son chargement d'engrais. Ça avait fait un bloom d'algues incroyable sur le lac, dont Mirrofil avait profité. Devant le manoir, on avait fait une expérience, on avait même fait venir des plongeurs, on avait essayé différentes techniques. Des plongeurs, avec toute une horde de citoyens, on avait rempli une boquette de camions en 4 heures. C'était hallucinant, on se disait, si ça pouvait se fumer, ça ferait avoir une fortune. bref, on a essayé différentes techniques. Mais ce qui était le meilleur truc, c'est le règlement sur...
Ouais.
Ça, là, on a vu l'impact en quelques années, ça a réduit le fait ça. Évidemment, où on en trouve le plus actuellement, c'est dans les émissaires. Alors, près de notre accès au lac, on a l'émissaire d'en haut. Il y a un tombe alluvionnaire qui se fait, il y a un dépôt de sable. Et ça retient des éléments nutritifs. Et on voit un packing batch de myrophile. Alors, partout où il y a des émissaires, on voit du myrophile. Mais beaucoup moins abondant qu'à l'époque. Donc, la réglementation en fait une partie de la job, mais on voit qu'il y a encore des éléments nutritifs qui rentrent dans le lac, qui les alimentent.
Mm-hmm.
Peut-être un avis aux citoyens pour dire d'avoir des zones préférentielles pour aller faire la planche, à pagaie, puis peut-être même dire à des zones, essayez de ne pas y aller.
Bien, c'est sûr qu'idéalement, il faut vraiment être à la pagaie dans les zones profondes, au centre du lac, parce que déjà, c'est agréable, la planche, il faut nous gêner. Mais c'est sûr qu'il faut quand même mettre des zones d'accès depuis son canton.
Oui, c'est ça, il faut s'y rendre.
Oui,
ça, exactement.
C'est une mesure coût-bénéfice, là, c'est pas une grosse affaire d'installer un tapis. Ça fait une forte.
Mais c'est qu'il faut l'enlever. Parce qu'il se ramasse des sédiments en dessous, puis il s'accroche. Ça pousse. C'est l'expérience qu'on a de ça.
Il existe une étoile biodégradable aussi qui existe. C'est peut-être une alternative, mais vraiment, ça coûte plus cher.
Puis la cueillette,
ça tient 2-3 ans en général.
Puis la cueillette, il faut aller chercher la racine, parce que si on peut la couper, elle pousse encore.
Le lac Massawippi, ils ont fait une...
Oui.
En tout cas, en fait, c'est qu'ils dessinent une petite algue avec une bouée là, pour indiquer aux gens des secteurs de forte présence de myrophiles. Fait que ça permet aux gens d'éviter un peu ces secteurs-là parce qu'ils connaissent bien. Fait que ça pourrait être des interventions qui soient intelligentes, qui ne coûtent pas cher, qui n'est pas très compliqué là, de faire un inventaire un petit peu. Je ne dis pas qu'il va y avoir des bouées partout, mais un peu partout pour identifier qu'ici, secteur protégé, notamment là où, pour que les gens puissent contourner, puis ça serait simple à faire aussi. Fait que toutes ces idées-là, là, on a mis ça sur un dossier, puis on va les traiter prochainement avec Agéro, puis avec avec l'Environnement à Québec. Là, on est très conscient qu'il faut faire de l'intervention, parce qu'on a plus un petit peu que la dernière diagnose. Là. Je ne dirais pas que c'est majeur, mais on a plus de sédimentation aussi. En tout cas, il va vous en parler tantôt.
Est-ce que vous avez
ça?
Oui, vas-y.
Ben, aussi imprimer des cartes avec les zones, qu'on connaît les zones.
On oublie ça, tu sais, des gens, c'est inconscient aussi.
Puis aussi t'expliquer c'est quoi la myrophile.
Oui, mais tu peux mettre sur le site aussi, tu sais, les gens peuvent aller voir partout.
Ouais.
Parce que des fois, les gens, ils pensent, tu sais, on a toutes nos solutions, mais oui, on est juste à mettre un tapis, ça va régler le problème, mais tu sais, ça ne règle pas tant. Fait qu'il faut essayer de voir la chose optimale. Puis moi, je vous dis, la plus belle intervention, c'est surtout l'humain quand il est conscientisé, puis tout le monde. beaucoup de problèmes. On n'a pas tant, mais ceux qu'on a, on aimerait, ça va améliorer de beaucoup.
Donc, en vert, vous voyez, c'est même la VIP, où est-ce qu'il se trouve au lac de la Gueule.
Ouais.
Vous voyez, c'est vraiment, ce sont tous les zones qui sont en
haut.
Au bas.
C'est là où ça dérange le plus, tu sais, parce que c'est là où tu as à passer pour aller
dans le lac. C'est en haut, c'est la bathymétrie du lac. À partir de 10 mètres, il n'y en a plus.
C'est
okay?
Ça.
Mais ça peut jusqu'à 10 mètres de profondeur.
Ouais.
Alors, il faut savoir que le lac, lui, il y a une fosse profonde, une centaine de mètres. Mais tout le pourtour, surtout près des zones habitées, il y a eu beaucoup de sédimentation. C'est là qu'il peut
faire.
Oui. Oui,
oui.
Vous aussi, ça vous
marche.
Je crois que ça m'a fait un rapport pour que je regarde, je m'en rappelle plus par cœur.
Je pense que c'est le MRN.
Je crois que c'est
le ministère des ressources naturelles à l'époque qui faisait. Parce qu'il y avait la faune associée à ce ministère-là à l'époque. Qui étudiait le potentiel faunier. Puis il faisait des bâtiments.
Okay. Est-ce que vous vous rappelez, c'est quoi qui avait été mis en place le règlement pour les engrais dans les deux?
Ben, carrément, c'était interdit
dans les sites. Vous
sortez la liste? Carrément, systématiquement.
Vous sortez la liste, c'est ça?
En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est à la tête d'un réservoir d'eau potable. Il y a une réglementation dans la charte de la ville de Québec qui interdisait déjà depuis longtemps toute baignade et tout bateau moteur. Et cette réglementation-là se finissait à la décharge du lac de l'Arche, par hasard. C'est pur hasard. Donc, au lac de l'Arche, il fut un temps où le manoir avait une embarcation moteur pour faire du ski nautique. Mais il y avait le potentiel de, tu sais, une fois qu'il avait fait le skieur, il était étourdi assez vite. Mais les embarcations moteurs, en fait, c'était très limité parce qu'il n'y avait pas de quai possible autour du lac, d'une part. On avait interdit les quais.
Pas d'embarcations.
Puis les embarcations, ben, finalement, il n'y avait aucun intérêt d'avoir un. Alors, il y avait le manoir, puis à un moment donné, il l'a abandonné. Mais, puis à Bagnard, pendant longtemps, il y avait une rumeur urbaine qui disait qu'on n'avait pas le droit de se baigner, mais c'était pour éviter l'escalade.
Ouais.
Mais la réglementation, ça se termine à la décharge du lac, mais avec tout l'engouement qu'il y a eu la question de la protection de la source d'eau potable, ça s'est étendu ici.
Je viens de penser à ça parce que je ne me souviens plus en quelle année, mais auparavant, c'était le lac qui fournissait l'eau de la ville.
Absolument,
ça. Parce que ça a changé de place et en
vous
avez 80.
Ce qu'il faut savoir là-dessus, puis c'est important que vous le sachiez peut-être, c'est qu'à l'époque, la prise d'eau était carrément au site d'embarquement de
Bagnères. Okay.
Okay.
Ouais.
Et la crépine là, qui allait chercher l'eau, elle prenait à la surface du lac, à la surface du fond du lac.
Ah.
Puis comme il y avait déjà beaucoup de matière organique dans le lac, ce qu'on pompait, c'était une eau remplie d'algues microscopiques.
Oui, oui.
Puis l'eau minéralogique était très bonne, sauf que le fait qu'elle était remplie d'éléments organiques, pour distribuer cette eau-là, on mettait du chlore. Et le chlore réagit avec la matière organique qui fait du trihalométhane. Et on avait le score le plus top niveau. La norme était de 60 mg par litre de trihalométhane dans l'eau. Ici, on avait du 350-400 mg par litre l'hiver. Alors moi-même, je suis allé au conseil municipal sur tous les trucs. Et c'est à partir de là, parce qu'il y avait des gens malades là, avec cette eau-là. Puis en plus, notre réseau d'aqueduc était assez désuet, merci. Parce qu'on avait une eau rouge.
C'est ça qu'on a fait les cuirs d'ailleurs.
Ouais. On a vu une eau rouge remplie de réseau métal. Alors là, il y a une étude, puis c'est ce qui fait qu'on va chercher l'eau maintenant sur le bord de la grande. On a une très bonne eau maintenant.
Non,
mais ça permet de donner l'information que les gens
ont fait. Je voulais juste bonifier ce que François disait par rapport au moteur, parce qu'au départ, c'est là-dessus qu'on parlait. Dernièrement, on a mis des pressions là, pour que le fédéral empêche aussi les bateaux, les moteurs électriques avec une limite de puissance. La problématique, c'est qu'à ce temps, on a des moteurs électriques qui peuvent être aussi dommageables que les moteurs à essence, c'est-à-dire pour faire du mouvement. Alors, le gouvernement fédéral a passé, puis le lac de l'Arche est inscrit comme étant avec la limite. Là. Vous avez vu passer ça de toute façon là, dans les villageois et sur les sites, mais c'est c'est des choses comme ça qu'il faut faire attention, parce que si quelqu'un arrive avec une planche électrique demain, là, que, qui vole dans les airs, là, c'est de toute beauté, mais ça se frappe vraiment. Là, ça balaye le fond et c'est aussi pire que des moteurs à essence. En tout cas, c'est des niaiseries, mais toutes ces petites affaires-là font qu'à un moment donné, en tout cas, je pense qu'au cumul, on obtient des résultats pas pires. C'est bon, on va laisser parler notre chef.
Je reviens au Mervé-Lapi, donc, on avait un peu dévié, mais ça pour dire que je posais la question tout le monde, c'est quoi que ça avait mis en place le règlement pour les engrais, c'est parce qu'on voyait que malgré tout, le Mervé-Lapi continuait à croître année après année. Il avait atteint son top en 2016. En 2022, je ne sais pas si c'est la carte, mais en gros, la surface occupée par le Mervé-Lapi a beaucoup diminué par rapport à 2016. C'est une bonne nouvelle. Mais c'est un peu trop tôt pour nous pour vraiment affirmer que ça va mieux par rapport à ça. On a également eu la même observation à Lac-Saint-Charles, il y a eu beaucoup moins de Mervé-Lapi en 2022 qu'en 2021 et qu'en 2016. On verra dans le futur effectivement à la prochaine année si cela se confirme, ou si vous aussi si vous voyez une différence par rapport à vos
élèves.
Oui.
Ça ne va pas aussi avec la température.
Ça va être plein de choses. Température, précipitation, temps de glace, peu aussi d'hiver ou de printemps, il y a plein de choses qui arrivent là-dedans. Donc ça, c'est vraiment dur pour l'instant d'avoir une conclusion par rapport à ça, mais on verra dans le futur si ça se confirme ou non.
Okay. Oui. Tu vas vous parler du mériophile, tu sais, comme je vous dis, quand je vais sur le bord du lac puis j'en vois des tours, là, est-ce que c'est une bonne idée de les ramasser
non,
et les danser en forêt ou
c'est
des boucassés qui ont des
rues
sur la plage.
Oui,
non,
pas.
C'est
Achille, je ne
sais
pas. Achille, par contre, je ne recommande pas.
Non, je l'arrache.
Non, non, pas le
non,
ramasser
ceux
qui flottent qui ont été
avec lui.
Ouais. 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 Ouais.
Ouais. Ouais.
Ouais.
Ouais.
Ouais.
Ouais.
Ouais.
Ouais.
Ouais.
Ouais.
Ouais.
Ouais.
Ouais.
Ouais.
Ouais.
Ouais.
Ouais.
Ouais.
Ouais.
Ouais.
Ouais.
Ouais.
Ouais.
Ouais.
Ouais.
Ouais.
Ouais.
Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais.
Ouais.
Ouais.
Ouais.
Ouais. Ouais. Ouais. Ouais.
Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Là,
un prototype.
Le public ont construit de leurs mains.
En fait, c'est pour ramasser les lentilles d'eau qui sont sur le dessus du dernier bassin. Puis ça marche très bien. Les gars sont tous fiers de leur invention. Puis on regarde ça. Je suis allée aussi.
C'est
impressionnant.
Si on a une chose sur une auto, mais aux États-Unis, on s'est informé, mais c'est 10-15 000. Fait que là, André et Philippe, ils ont confectionné ça en gros, puis là, ça marche
vraiment
gros.
Ça marche
en bas. En fait, les lentilles d'eau sur le troisième étang, ça coupe le soleil, puis là, ça nuit à
mon mélange.
Au résultat qui sort au résidoir pour
avec l'équipe de derrière qu'on a eu, pas de soleil. Ça nuit rien.
Non, mais en fait, là, depuis deux semaines, genre. Je remarque qu'une petite amélioration, peut-être que c'est encore trop tôt pour mettre ça, pour vendre ça à d'autres villes. Mais l'effort est là, puis moi, j'étais curieux de savoir comment c'est en arrêt. Mais écoute, quel un zéro là, facile.
Ouais.
Là, on voit vraiment, là, visuellement, physiquement, que ça diminue.
Ouais.
Fait que là, j'ai hâte de voir dans 2-3 semaines, voir si c'est plutôt. On est capable de garder nos résultats encore mieux que.
C'est de qualité.
Oui, parce que le phosphore, ça prend du soleil et un peu
c'est ça qu'on ramasse, c'est qu'il flotte sur le dessus des étangs. Fait que, okay. Juste pour. Il y a même une vidéo, là, il y a nous autres ici, okay. On est bien contents de ça.
Mais
on se réjouit, il n'y a pas grand-chose.
On a
toutes
vu
de
vidéo.
Oui, probablement là, on est pas rendu là, mais on parle à Sonia cette semaine. Voir qu'est-ce qu'on peut faire comme réutilisation, parce que je pense que ça
fait
de la bonne
engrais.
C'est
pour un petit salon.
Quelquefois,
par
la 5 ans. Tu ne peux pas prendre.
Alors, plantes que tu peux voir là, ces lentilles-là, c'est comestible, en fait. Tu peux donner ça, mais c'est ça pour les animaux. Là, ici, on n'a pas encore commencé ça, mais là, on a trop de beaux résultats. On va regarder, on va dire qu'on va du taxe avec ça, mais qu'on vend ça.
Mais c'est une belle réalisation. Les vainqueurs, tu sais, ça a coûté 300$ puis du temps, mais en fait, je pense que l'effet, on va le voir sur les tests, mais vraiment, ça va être plus bénéfique pour le traitement là, à la sortie, ce qui est une bonne chose là, pour.
Finir là-dessus, c'est que c'était l'antilo, il vient de Montréal, il se dépose au fond, fait qu'il y a vraiment les goûts. Au lieu d'extraire les bouts, maintenant, on l'exemple à tous les
acteurs.
On peut aller à 5-6 ans, puis c'est dispendieux de faire ça, faire ça. Fait que si on peut économiser dans le temps les dépenses, ben, ça fait plus d'argent pour les travaux.
Faut ajouter comme moyen aussi que le nettoyage est dans
l'emplacement.
Tu vas en parler?
Oui.
Ça marche comme ça. On a beaucoup parlé du mauvais filet épi, que vous avez déjà depuis très longtemps dans la ville de l'âge, mais il y a effectivement d'autres espèces exotiques envahissantes qui existent au Québec. La plus connue, c'est la mole zébrée peut-être, ou qui a pris vraiment n'est pas une grosse menace pour ici parce qu'il n'y a pas tant de calcium dans nos eaux, mais il y a quand même d'autres menaces aussi qui existent, que ce soit des plantes, que ce soit des animaux, des poissons. Et très souvent, bah, le responsable de leur expansion, bah, c'est l'être humain. Et avec ça, ça va être très souvent doublement ça. Très souvent, ce qui se passe, ce sont des gens qui viennent avec une embarcation dans un autre lac, avec un petit passager clandestin dedans, ils ne s'en rendent pas compte. Ils viennent faire leur kayak ou leur paddle de bord, ou peu importe, au lac de l'âge. Et celui-ci se sort dans le lac, et ils viennent bien le lac, ils commencent à développer, à croître, et finalement, on a un nouvel envahisseur. Et donc, par rapport à ça, je veux vraiment mettre l'accent sur le fait que c'est vraiment important, en tant que citoyen, quand vous allez faire du kayak ailleurs, du canot ailleurs, de la pêche ailleurs, pour vos films de pêche également, de vraiment, avant de revenir à la maison, à l'âge et d'aller faire une activité nautique, de vraiment vérifier que vous n'avez pas un passager avec vous. Plusieurs choses à faire. La première chose, c'est l'inspection visuelle. C'est vraiment plus pour les plantes. Vous avez un plant sur votre bateau ou sur votre moteur, vous allez le voir normalement. Mais il y a des choses plus subtiles, plus vicieuses, c'est les petits organismes qui sont quasiment microscopiques, qui font genre 1 mm ou moins. Donc là, pour le voir, il faudra être très bien. Et donc là, la technique, effectivement, comme a mentionné François, c'est le lavage. Le lavage ou le séchage au soleil. Donc, il y a vraiment deux méthodes à faire. La meilleure méthode, c'est vraiment de dire, bah, pendant 3 jours, mon paddle board, je le mets en plein soleil, ça va tout brûler, les UV, il n'y a rien fait pour ça, et ils vont mourir. Ou alors, si vraiment vous voulez le faire dès le lendemain, vous pouvez encore réunir votre embarcation, c'est vraiment de passer un bon coup de hausse pour enlever le plus de choses possible. Et idéalement, la meilleure chose à faire, c'est le coup de hausse, c'est de le faire à l'endroit où vous quittez le lac avant. Parce que si vous faites votre outre dans votre jardin, bah, il risque d'aller être flushé dans le lac in fine. Donc, dans le meilleur des mondes, c'est vraiment l'inspection visuelle avant de quitter le lac ou la rivière où vous venez, le lavage également sur place, avant de vraiment de revenir ici au lac de l'âge. À noter aussi que ça va dans l'autre sens également. Si vous ne voulez pas mettre le VIP ailleurs, important effectivement avec votre embarcation de l'inspecter avant de partir dans l'autre lac pour pas que sur l'autre lac reçoive du VIP. Alors, en sachant donc que j'ai mentionné tantôt que le mauvais filet épi, pour moi, c'est un. Oui, c'est pas agréable, c'est pas le fun, mais c'est pas le pire. Il y a vraiment des espèces envahissantes qui sont bien plus problématiques pour le lac, que ce soit pour la santé du lac, mais aussi pour les infrastructures. Il y a par exemple des espèces envahissantes qui vont poser des gros problèmes pour les espèces de poissons, qui vont vraiment affecter la capacité du lac à supporter une faune et une flore de bonne qualité. Il y a des espèces qui vont vraiment directement nuire sur la santé du lac en sens qui vont vraiment promouvoir le risque d'avoir des florisons de la bactérie. Donc il y a d'autres espèces qui sont bien pires que le mauvais filet épi. On en parle moins parce qu'elles sont moins visibles, mais elles sont tout aussi présentes et problématiques. Et donc vraiment pour ça, l'inspection, l'observation, c'est une bonne pratique à avoir. Même si l'idéal, dans le meilleur des mondes selon moi, c'est d'avoir des embarcations qui sont propres à votre lac. Si vous avez la chance d'avoir, mettons, 2 paddleboards, vous avez un paddleboard pour le lac de l'âge, un paddleboard qui pour ailleurs que le lac de l'âge, là vous avez zéro risque d'avoir aucune contamination. Certainement, le lac de l'âge, vous avez moins de risque pour que le lac s'enchaîne parce que vous avez beaucoup moins de, je pense, de visiteurs externes qui viennent avec leur propre embarcation sur le lac. Mais n'empêche que malgré tout, le risque zéro n'existe pas. Et donc, en gros, c'est d'arriver à trouver une solution pour minimiser au plus possible afin de retarder le plus possible l'arrivée du visiteur indésirable.
Est-ce
qu'il
se trouve dans
l'accès
Charles peut facilement remonter jusqu'au lac?
Non, en général, non. C'est très, très rare les espèces. Il y a des poissons, oui, mais les espèces fauniques, de plancton ou floristiques, ils ne montent pas à contre-courant. Par contre, l'inverse, c'est vrai. Si quelque chose arrive au lac de l'âge, il ne faut pas parler que quelques années plus tard, il sera au lac Saint-Charles, puis après, quelques années plus tard, il sera dans la rivière Saint-Charles aussi.
Moi, je voudrais par contre, il faut faire attention, c'est que des fois, le lac de l'âge est plus bas que le lac Saint-Charles,
oui,
parce que quand ils ferment le barrage au lac Saint-Charles, il y a un refus.
Il y a un courant inversé.
Ça arrive.
Ça arrive un peu plus fréquemment.
Je me souviens des années 80, quand je suis arrivé ici en 88-89, à un moment donné, le lac est devenu bleu, le ciel.
En quelle année?
Des années fin 80. Le bleu turquoise, comme un gros ciano. Et c'est là qu'ils ont fermé, ils ont fait une digue pour essayer de remonter le niveau du lac, pour reflocher tout ça. C'est ce qui est en surface. Puis ce qui aide le lac de l'Arve en passant, c'est qu'on a un taux de renouvellement assez important. On a une tête de lac, donc il y a beaucoup d'affluents. Fait que souvent, quand on fait un peu, on le voit, le niveau du lac floche. Ça aide. C'est un élément positif pour notre lac.
Oui, même si malheureusement, ça, c'est le lac, il a vraiment une forme de cône. Mais en gros, il est très profond. En fait, sa profondeur est importante par rapport à sa taille. C'est vrai qu'effectivement, les surfaces sont très rapidement flochées. Par contre, les eaux du fond sont vraiment pas du tout flochées.
C'est ça.
Et ça, on va y revenir après, mais c'est malheureusement un problème du lac. Enfin, c'est pas vraiment un problème, c'est un problème naturel. C'est pas du lac, c'est comme ça. Mais ça fait qu'il est plus fragile que d'autres lacs à des soucis de manque d'oxygène dans le fond. En gros, un lac, naturellement, il vieillit. Naturellement, un lac, comme n'importe quel être humain, il vieillit. C'est juste qu'un lac, il est chantier, ça vit sur des milliers, voire des dizaines de milliers d'années. Par contre, je parle vraiment d'un vieillissement naturel. Par contre, ce qu'on a constaté, effectivement, c'est que dès que des humains commencent à utiliser un lac, que ce soit pour vivre, que ce soit pour développement urbain, activité écotouristique, le lac commence à vieillir de manière accélérée. Merci beaucoup. Et on pourrait même dire de manière extrêmement accélérée. À savoir qu'on voit des lacs, par exemple le lac Saint-Charles, c'est un très bon exemple, le lac Saint-Charles, il a probablement vieilli en 100 ans de plusieurs milliers d'années. C'est vraiment un glissement qui est extrêmement accéléré. Et à ça, bien évidemment, un lac, avec les humains qui vivent autour, il n'y a rien à faire, il ne sera jamais aussi protégé, il ne va jamais aussi vivre naturellement que s'il n'y avait pas d'humain. Mais on peut quand même arriver par nos pratiques à minimiser notre impact le plus possible sur le lac. C'est quoi vraiment la cause principale de ce glissement? C'est le fait qu'en utilisant un bassin versant, on va l'imperméabiliser. On va créer des zones effectivement où on va mettre du béton, on va créer une maison avec un toit, on va mettre de la pierre, peu importe. Et c'est dans une zone en fait où l'eau, au lieu de s'infiltrer et d'arriver dans les souterrains ou de la filtrer, elle va directement être lessivée, amenée directement au lac à chaque pluie finalement. Et elle va ainsi laver, on va dire ça, tout le sol qu'elle traverse, amenant ainsi tous les détritus qu'on peut avoir sur les routes, les déchets organiques et inorganiques. Et également, ce qui est vraiment le cœur qui provoque l'émission du lac, c'est les nutriments, à savoir l'azote et le phosphore. Donc justement, très bien qu'il n'y ait plus d'engrais au lac de l'âge, parce que l'azote et le phosphore, c'est le cœur même des engrais finalement. Et donc, par exemple, quand vous mettez un riverain et vous mettez de l'engrais sur votre pelouse pour avoir une belle pelouse bien verte, si le lendemain il pleut, 90% de l'engrais que vous avez mis, envoyez tout au lac. L'engrais, c'est vraiment la pire chose qu'on peut mettre en bordure d'un lac. Si on veut que le lac reste en santé, l'engrais doit être absolument proscrit. Mais aussi une conséquence effectivement de cet arbre de nutriments, c'est le fait que pourquoi les nutriments ça provoque l'émission du lac, c'est parce que c'est effectivement comme pour l'herbe, l'azote et le phosphore, ce sont le carburant de base, on pourrait dire, au développement des plantes. Donc bien fait les pies, mais également les algues comme les cyanobactéries. Et plus on a de plantes, plus on a d'algues dans un lac, plus le lac est productif. C'est-à-dire plus celui-ci va avoir une faune importante, plus ils vont prendre de l'oxygène, donc consommer de l'oxygène, et plus votre niveau d'oxygène dans le lac il va baisser. Et au Québec, mais comme dans beaucoup de pays du monde d'ailleurs aussi, dès qu'on a un climat un peu tempéré, ce qui se passe, c'est que dans un lac, je vais vous faire un lac schéma très simpliste, en fait, vous avez le soleil donc, qui frappe l'eau, la surface du lac, plus l'atmosphère également quand il fait chaud en été, ce qui fait que vous avez une couche de surface qui est relativement chaude et qui va directement prendre l'oxygène qu'il y a dans l'atmosphère, donc il y a vraiment un renouvellement continu d'oxygène. Donc en surface, vous avez une eau chaude avec beaucoup d'oxygène. Par contre, dans le fond, vous n'avez pas, on est quand même à 26 mètres au lac de là, vous n'avez pas l'apport de température amené par le soleil et par l'atmosphère, ce qui fait que là, on va avoir une eau beaucoup plus froide. Alors, en général, à 4 degrés, parce que c'est la température la plus dense de l'eau, donc l'eau froide à 4 degrés, elle va en premier couler. Et entre ces deux couches-là, la couche dans le fond à 4 degrés et la couche de surface à 20, 22, 23 degrés, il n'y a aucun mélange sur ça. C'est comme si vous avez de l'huile sur de l'eau, c'est la même chose. L'eau chaude flotte sur le froid, il n'y a pas d'échange entre les deux couches. Et ce qui fait que là-dedans, ben, il y a quand même de la vie qui se passe. Il y a quand même des algues qui sont là, il y a des eaux qui sont là, qui vont respirer, prendre de l'oxygène. Ce qui est qu'à un moment donné, l'oxygène ici, l'oxygène qu'il y a ici, il n'aura plus. Elle sera à zéro. Et là, c'est un problème pour plusieurs raisons. Première raison, c'est que les poissons, par exemple, qui sont là, ne sont plus là, parce que les poissons sont peut-être qui respirent. Mais le problème le plus tendancieux, on va dire, pour la santé d'un lac, c'est que si vous avez des sédiments dans le fond qui sont, mettons, riches en nutriments, admettons par exemple que dans le passé, il y a eu beaucoup d'enrées qui ont fini dans le bassin versant, et qu'à la fin, à force de la sédimentation, eh bien, il y a plein de nutriments qui sont accumulés dans le fond, eh bien, quand il n'y a pas d'oxygène, les nutriments comme le phosphore, ils ont tendance à remonter dans le lac. Donc là, vous avez un apport dans les nutriments qui vient du fond du lac en situation de manque d'oxygène dans le fond. Et ça, c'est très problématique parce que ben, c'est dur de régler le problème. Quand il n'y a pas d'oxygène dans le fond, on ne peut quasiment rien faire. Il existe effectivement des aérateurs qu'on peut installer, mais les résultats sont assez mitigés. On met des aérateurs, on met des fontaines, il faut s'agir également de mettre une fontaine qui va pomper l'eau dans le fond du lac pour la remonter. Ça marche moyen, on va dire. Donc la meilleure méthode, ça reste effectivement de pas mettre phosphore dans le fond du lac, ça reste la méthode la plus efficace. Donc c'est vraiment toute la prévention plus que la curative qui est toujours le plus efficace. Le lac de Lage, malheureusement, effectivement, dans cette situation-là, à savoir que le fond est vraiment peu oxygéné, à savoir également que ce que je vous montre là, c'est vraiment ce qu'il y a en été. Mais au printemps et à l'automne, on a ce qu'on appelle le mélange, printanier et automnal. En quoi ça consiste, c'est que là, la température baisse. Et donc l'eau ici, la température baisse également. Et donc à un moment donné, il va avoir la même température que l'eau dans le fond. Là, il va avoir un gros mélange. Toute l'eau va se mélanger one shot. Mais le lac de Lage, il a une forme tellement conique, tellement une forme tellement abrupte, que le mélange, surtout au printemps, il est tellement court que ça n'a pas le temps d'entièrement s'oxygéner. Ce qui fait que même quand on y va au mois d'avril-mai, quand le lac est déjà en train de se stratifier, on est déjà en manque d'oxygène dans le fond. Donc ça montre clairement que le problème se va vraiment du mois de janvier jusqu'au mois de novembre, octobre-novembre. Le lac a vraiment un gros manque d'oxygène ici. De nouveau, comme je dis, il n'y a pas grand-chose à faire par rapport à ça, si ce n'est de garder en tête et de se dire que mon lac est peut-être plus fragile qu'un lac qui ferait seulement 6 mètres de fond par rapport à ça et qui donc, pour le coup, pourra toujours plus facilement se soutenir dès qu'il y a un coup de vent. Ça a été mentionné tantôt également par François. Un autre enjeu du lac, c'est effectivement le fait que dès qu'il pleut, dès qu'il y a des fortes pluies importantes, le lac va avoir qui va augmenter parce qu'il va avoir beaucoup d'apport d'eau de la rivière du Huron, ce qui fait que le niveau du lac augmente beaucoup sensiblement. Et si on voit ici, mettons, à l'exutoire, donc vous avez ici la station d'épuration de Lage, et aussi c'est le chemin qui va normalement vers le lac Saint-Charles. Et bien, ce qui se passe, c'est que quand le niveau augmente trop ici, il y a une inversion du courant. Et donc là, déjà pour commencer, ça arrive quand il pleut très fort. Donc quand il pleut très fort, très souvent, il y a beaucoup d'apport de contaminants dû au fait que le sol est décidé par les pluies. Donc vous avez l'eau de la rivière du Huron qui arrive, pas de qualité incroyable, pas sans mentir. Rivière du Huron qui en plus amène également tous les contaminants qui sont à Stonham, dont la saison d'épuration de Stonham. Et en plus, ici, vous avez l'exutoire qui sort de la zone d'opération, qui donc c'est finalement vos eaux usées traitées, qui sont également prises par ce courant inverse et qui amènent donc tout ça au lac de Lage. Ce qui fait qu'au lac de Lage, quand il pleut fortement, vous avez un apport de contaminants, d'eaux usées traitées, qui arrivent au lac, qui sont malheureusement riches en azote et en phosphore. Pourquoi ? Parce que l'urine, c'est de l'azote, et la matière fécale, c'est du phosphore essentiellement. Et donc, là, par rapport à ça, effectivement, on a constaté effectivement en 2022 que le phosphore, malgré le fait qu'il n'y a plus d'engrais dans le bassin versant, le phosphore continue à augmenter au lac de l'Age. Quelles seraient les causes ? Cette inversion du courant au niveau de l'exutoire serait finalement une cause potentiellement problématique. Et il faut aussi garder en tête que malheureusement, on vit dans un monde où le changement climatique est de plus en plus important, et une des conséquences du changement climatique, c'est des épisodes de pluie plus intenses. Donc à savoir qu'on s'attend dans le futur effectivement à ce que ce courant inverse devienne plus finalement la norme que l'exception sur l'été, malheureusement. Donc ça, ce serait effectivement c'est une problématique qui est de plus en plus importante au lac de l'Age. À Agir, on a beaucoup d'espoir qu'un jour, il y aura l'accordement des égouts à la ville de Québec, qui permet effectivement que les eaux usées de l'Age et de Stoneham soient directement envoyées à Québec et qu'il n'y ait plus ces problématiques d'avoir des eaux usées qui sont déversées dans une prise d'eau potable. Malheureusement, on n'en est pas encore là. Oui ?
Un jour. Il y a une étude en cours, ça a été nommé ici il y a déjà 4 ans. On parle d'un projet de 200 millions.
Oui, ça prend un certain investissement.
J'étais au cœur de ce projet avec la ville de Québec. Mais écoutez, c'est pas simple. Il faut faire des conduites dans le Rock jusqu'à Lac Saint-Charles, jusqu'à quasiment à l'usine de Châteaudou. Puis raccorder Stoneham. Tu sais, les municipalités vont mettre leur part là-dedans aussi.
Je comprends, mais quand on parle de 200 millions, on parle de la province de Québec au complet.
Non.
C'est rien qu'ici.
C'est exponentiel, les coûts. Une autre affaire que je pourrais peut-être mentionner, c'est que historiquement, le lac de l'Arche, c'est un lac qui a été formé par un lac glaciaire. Hein, c'est un lambeau. Donc, imaginez un bloc de glace qui a pris la place dans le dos, puis a fondu graduellement, puis les sédiments se sont mis autour. Et graduellement, ça s'est eutrophisé, il y a eu des marais autour. Donc, on a beaucoup de matière organique à une certaine profondeur, parce que quand on a rehaussé le lac Saint-Charles pour en faire une brise d'eau, on a inondé un paquet de zones humides, de zones marécageuses.
Qui servaient de filtration.
Qui servaient de filtration, mais qui étaient une apport aussi en matière organique qui pompait l'oxygène. Et ce qui fait que quand on voit au printemps des petites remontées de gaz, c'est de la décomposition de la matière organique, c'est du méthane en gros. Donc, on pense que c'est des trous de marmotte, là. Ou des trous de remusqué. Non, c'est de la décomposition de gaz dans le fond du lac. Donc, c'est pas aidant, cette question-là, aussi pour la question de l'hygiène. Puis, il faut savoir l'usine à date, OK? La première usine?
La première usine?
Oui, la première des deux trous qu'on avait, la mine. En fait, c'est dans fin des années 80. Fin des années 80. Il faut savoir que le manoir de Lac de l'Arche, à l'époque, c'était quand même opérant, les années 60-70. Tout était rejeté dans le lac, directement.
Ouais.
Alors, on a un capital phosphore et de trucs qui s'est ajouté au bilan. Il y a, on pourrait appeler ça le passif environnemental.
Ce processus-là, il y a une forme de lac anoxique qui relâche du phosphore. Est-ce que ça pourrait être une source aussi, vu qu'on est plus souvent en anoxique?
Effectivement, c'est une source potentielle. Justement, de nouveau, j'avais dit au début qu'on voit les symptômes, mais essayer d'avoir les causes. Là, je vais faire plusieurs. Est-ce que c'est le fond du lac qui relargue? Est-ce que c'est la vie, ça vient vraiment du courant inversé? Est-ce que c'est les deux ensemble? C'est dur à dire de c'est quoi la
fonction
de
ces facteurs.
C'est l'ensemble, mais est-ce qu'il y en a un qui est plus important que l'autre? Je ne sais pas. Je ne vais pas vous le dire. Il faut vraiment pousser vraiment là-dessus pour voir c'est quoi les flux de phosphore au lac de l'Age pour avoir la réponse. Il y a aussi effectivement d'autres. Oui, pardon, monsieur.
Est-ce que vous avez un moyen de monitorer la relation de flux? Est-ce que vous mettez des débimètres ou c'est vraiment visuel?
Pour l'instant, c'est pas fait. Pour l'instant, c'est plus on y va et quand on voit qu'il a inversé, on le prend en note. Mais effectivement, on pourrait imaginer mettre un millimètre afin vraiment de visualiser constamment c'est quoi le.
Surtout dans un contexte de changement climatique, là, parce que de plus en plus, les fortes pluies de 100 mm, on a. C'est plate, mais je pense que ça va être pas mal. C'est sûr que dans ce temps-là, on a des courants inversés à toutes ces fois-là. Là. Fait que, mettons, avant, on avait juste une ou deux pluies comme ça dans l'été. Mais là, si on a 25, ça se multiplie 25 fois qu'il y a du courant inversé. Fait que, nous, on a bien beau pas mettre de sel, mais si la grande ligne, là, on a fait des pressions, la MTQ met beaucoup de sel sur la grande ligne. Mais tu sais, je veux dire, les bassins versants puis la protection du lac de l'Âge, ça fait partie aussi de la protection de l'ensemble et de la ville de Québec et de la ville de Sonam. Parce qu'on se pollue tout, nous on est en bas. Fait que c'est sûr qu'il faut tout travailler ensemble avec des méthodes puis d'essayer de se coordonner. Puis c'est pour ça qu'il y a des groupes tripartites. Puis d'ailleurs, il y a un programme de subvention qui s'est débloqué avec ça. Mais il faut travailler ensemble, il ne faut plus travailler en vase clos pour des interventions sur le lac, peu importe là, à quel niveau. Parce qu'on se rend compte que même si on fait beaucoup, beaucoup d'efforts ici, ben c'est très minimalisé s'il y a beaucoup de courants inversés puis qu'on a de. Mais je vous dirais que c'est complexe, mais dans l'ensemble, c'est là-dessus que le comité, là, d'ailleurs, a été formé. Pour ça.
Si tu permets, quand on regarde la végétation en arrière, hein, on ne met pas d'engrais. Il n'y a personne qui va mettre d'engrais dans la forêt. La forêt est capable, est généreuse de fournir son propre engrais dans les sols. Les sols qu'on a ici, c'est des sols qui sont excessivement poreux, c'est-à-dire que c'est un dépôt de silt, de sable, de pierre, qui forme un horizon de sol qui accumule des matériaux, phosphore, azote, carbone, et c'est très lié au climat. Okay? Alors, quand les sols deviennent plus acides, ces sols-là libèrent ces éléments minéraux. Dès que vous coupez de la végétation à une place, vous venez de modifier déjà le cycle de la formation des sols et vous libérez des nutriments. On appelle ça des nutriments, des fois on les appelle des contaminants quand ils deviennent bien plats. Donc plus vous faites des sentiers, là je m'excuse, mais c'est quand même ça pareil, dès que vous enlevez l'humus, la partie organique du sol, des fois on voit un gris cendré, tu sais, dans le sol, ben ça c'est la partie qui est lessivée par les acides formés par la végétation, qui amènent les éléments nutritifs plus vers le sol, qui sont captés par l'aluminium, parce que dans ça, on a beaucoup d'aluminium dans nos sols. Aluminium et fer, ça capte les éléments nutritifs, le phosphore, l'azote. La notion des champs d'épuration qu'on a autour du lac est basée là-dessus. C'est pour ça qu'on exige que les champs d'épuration soient faits sur des sols en place, pour que ces éléments nutritifs-là soient captés par les minéraux dans le sol. OK? Alors, quand on brise la végétation, qu'on la coupe, qu'on met d'autres types de sol, on libère ces éléments nutritifs-là qui se ramassent avec les alluvions dans le lac. C'est ce qui explique qu'à chaque sortie de cours d'eau, on a une prolifération de plantes. C'est les éléments nutritifs qui viennent du bassin versant.
C'est une super condition parce que ça va être la troisième source de phosphore qui pourrait, ce que ça pourrait être, les tributaires. Donc, alimente le lac de l'Âge, effectivement. Il y a quatre tributaires permanents au lac de l'Âge, plus plein de petits tributaires intermittents. Et effectivement, quand on regarde ces tributaires-là, on pourrait dire, en premier lieu, si vous voyez un rapport, on vous dirait, les tributaires sont quand même beaux, ils n'ont pas tant de phosphore que ça. Mais il faut savoir que notre diagnose, je leur fais des volontiers, elle a un gros défaut, elle fait par temps sec. On n'a pas été entendu. Et c'est souvent entendu que là, on n'allait plus les tributaires.
Puis
plus
tout bien.
C'est ça,
on
va vous prendre des éperviens.
Là,
c'est ça,
c'est
pour sortir quand tu
veux. J'ai peine de vous montrer visuellement parce qu'il n'y a rien à faire d'image, ils ont toujours mis de l'eau. Voilà à quoi ressemble le tributaire qui sort finalement du mamar de la gueule. Oui,
juste le principal.
Exactement, le principal. À quoi il ressemble en tant que pluie, en termes d'apport de matière organique. Donc vous avez le lac qui est ici, la gueule. Là, vous avez l'anatomie du manoir. Là, vous avez le tributaire. Et donc là, vous voyez effectivement toute la terre que peut amener le tributaire quand il pleut fortement au lac de l'Âge. Et donc, cette matière brune que vous voyez, c'est un mélange de matière organique, de sédiments, et c'est rempli d'azote, c'est rempli de phosphore.
Bravo.
Voilà.
C'est des bestioles, je vous dis. Mais aussi. Puis en 5 ans, là, je vous dirais que ça a le plus que. En tout cas, au niveau de l'augmentation, là, c'était exponentiel, oui, à cause des fortes pluies. Mais oui, à cause des interventions. Puis, on a des solutions. Là, c'est, évidemment, on a déjà un storm scepter qui est mis, c'est une espèce de grosse passoire là, pour capter les sables et les sédiments qui sont là. Mais il reste le branchement principal à faire pour capter le plus possible. Actuellement, ça couvre juste celui de la base-ville. Là. Fait que tout ce qui est le secteur ici n'est pas raccordé au pluvial. Évidemment, c'est des coûts. Mais comme je vous dis, c'est sûr qu'on va le faire un jour puis bientôt parce que c'est un projet qu'on a parlé aussi avec la Ville de Québec dans le cadre des infrastructures vertes parce que ça améliorerait assez récemment parce que ça permettrait de filtrer avant que ça descende direct là, parce que les cellules, ils sont là pour ça, mais ils ne sont pas conçus pour avoir autant d'eau. Là. Dans le fond, ils ont été conçus bien avant là, que l'ensemble, tu sais, que tout se soit développé. Maintenant, il faut reconcevoir les cellules, refaire les bonnes cellules, parce que les cellules actuellement, là, celles qui sont ici, là, qui fonctionnent tempête dans le sens qu'elle déborde, puis elle déborde dans un regard qui s'en va directement au lac. Fait que ça, c'est super pas bon. Puis deuxièmement, ce qui arrive, le sol qui est retenu là, là c'est des particules, okay, fines particules de ciment, là, de roche, puis ça se compacte, ça jambe. Fait que ça fait en sorte que l'eau, elle rentre même plus dans les cellules. Fait qu'il faudrait la nettoyer quasiment aux semaines. Puis tu sais, juste nettoyer les cellules, là, c'est 10 à 15 000 parités, là. Je fais nettoyer les cellules régulièrement. Puis il faut qu'ils soient efficaces, il faut que ça soit ça. Il faut qu'ils soient nettoyés. Ils ne sont pas assez dimensionnés pour recevoir, ils ne sont pas faits pour recevoir autant d'eau.
Au début, on a besoin d'en avoir plus.
Oui, c'est ça. Fait que tout ça pour vous dire que tout ça est en train d'être analysé pour revoir la quantité d'eau qui est rendue en bas, puis pour éviter qu'elle s'en aille au lac, dans l'émissaire qui va le filtrer par le stomacateur, qui est déjà là, qui avait été mis dans le cadre du PQM, puis qui a coûté autour de 120 000, 130 000. Là, c'est des grosses, c'est des grosses installations. Puis nous, malheureusement, tu sais, on n'a pas les moyens d'une grosse ville pour tout s'équiper en fois. Puis effectivement, des fois, ça prend du temps, fait qu'il faut attendre les programmes de subvention. Même si la ville en met une partie, ben, il faut quand même mettre. Des fois, c'est comme là, le secteur n'était pas subventionné. Là. La ville avait décidé de le faire parce que ça valait la peine dans le cadre du projet. Mais c'est 120 000. Les cellules, on a réussi à trouver un terrain d'entente avec Québec, tout ça, puis on a été subventionné, mais il faut quand même mettre notre partie à nous. Fait que chaque projet, c'est vrai que ça coûte pas cher, mais ça coûte pas cher en fonction, il faut quand même que tu mettes ta partie à toi. Fait qu'il faut attendre des programmes de subvention et des arrivages avec les autres. Mais Québec sont au courant là, de tout ce projet-là qu'on veut faire avec eux, puis sont très intéressés dans le sens qu'eux autres aussi, ils veulent la protection de leur bassin versant. Fait que c'est une bonne chose dans le sens qu'on travaille tous ensemble pour essayer de trouver les sous. Mais tu sais, juste la conduite, là, j'ai pas mesuré, mais ça doit être un million et demi au bon mot. Fait que tu sais, ça monte vite. Là. Puis les cellules, là, c'est un projet qui coûtait 600 000. Là. Fait que tu sais, ça a l'air de rien. Là. Vous voyez juste des plantes qui poussent, mais tu sais, c'est tout fait avec les bonnes couches de végétalisation pour absorber les fossiles qui ont été retravaillés aussi. Mais c'est ça, c'est des sous, puis on ne peut pas tout faire ça tout de suite, mais je vous dirais que c'est dans le collimateur, puis on souhaite que ces projets-là se réalisent dans un avenir assez rapproché, parce qu'on sait que c'est dommageable. C'est direct au lac, puis nous autres, on est dans le secteur, à côté, on est dans le noyau villageois, fait que tout descend, puis c'est le secteur névralgique.
En fait, c'est fait pour ramasser les sédiments, les éléments nutritifs où tu passes. Ils sont solubles.
Avec des intentions, vraiment les plantes qui vont être capables de capter un peu ces nutriments-là, mais je suis effectivement les nutriments qui sont solubles, eux vont partir, mais effectivement, on est dans des nutriments en particulier.
Ouais. Il y a un autre élément que tu n'as pas mentionné, mais c'est les champs d'épuration. On est chanceux, la galère, on en a très peu. Les maisons autour du rocher.
J'ai pas oublié.
Puis on a des grands terrains. On a la chance d'avoir des grands terrains, mais à Stoneham, quand il y a des pluies diluviennes, c'est comme un backwash sur un filtreur. C'est carrément ça. Alors, tout ce qui est dans les tuyaux descend dans la phréatique. Et à ce qu'on a, les nappes sont carrément polluées. Eux autres aussi ont un projet d'une centaine de millions pour raccorder les maisons à la champ d'épuration. Parce que l'eau n'est plus potable. Nous, on est chanceux encore ici. Mais c'est un fichu de problème.
C'est ça, c'est aussi. On fait beaucoup trop en pente. Et dès que tu es en pente, en fait, le problème qu'il y a, c'est que tu es en pente, le truc est extrêmement mince. Ils n'ont même pas la place pour mettre une installation septique de même sur leur terrain.
Non, c'est sûr.
Et ce qui fait qu'une installation septique de même, pour qu'elle fonctionne, il faut vraiment que le sol où elle est soit parfait pour la recevoir. Quand je dis parfait, ça veut dire que c'est un sol qui est épais, qui permet vraiment après de recevoir l'eau de la filtre.
90 cm.
Ouais,
minimum en menace.
Et alors, ça arrive très souvent, ça en a genre 10, 20, 30, 40, 50 km max dans la région. On regarde des fois des belles installations qui débordent, qui fait qu'on met de la terre par-dessus pour la cabine, il y a une sorte de bosse au milieu de ton jardin. Mais le gros défaut de cela, c'est que cette installation n'est pas optimale pour notre fonctionnalité. Ce qui fait qu'elle ne retient pas aussi bien les nutriments que pourrait le faire une installation dans les meilleures conditions. Et d'où l'importance, effectivement, dès qu'on est sur un stage septique, dans le milieu rocher, de s'assurer qu'elle marche. Mais surtout de toujours garder en tête, est-ce que vraiment, même si genre je la remplacerai maintenant en disant que j'aurais fait une nouvelle, est-ce qu'elle va être pour autant vraiment efficace? C'est pas dit, dépendamment de votre terrain, de sa pente, de l'épaisseur de votre couche de sol. Et donc, pour un peu par rapport à ça, est-ce que le raccordement, des fois, c'est très dispendieux, mais malheureusement, des fois, c'est la seule solution si on veut vraiment que les apports de nutriments soient réduits au minimum possible. Surtout qu'une installation, plus qu'une installation économique, normalement, ça a été vraiment conçu de base pour des chalets isolés en lieu isolé. Et c'est moins le cas à l'élevage, c'est beaucoup de cas avec moi à Solan, c'est qu'on a des quartiers entiers qui sont extrêmement denses, ils sont tous en installation autonome. Et ce qui fait que on a donc, j'ai plus chiffre en tête, je n'ai pas donné de nombre, mais on dépasse la quantité maximale d'installation par kilomètre carré de facteur 10 à facteur 20.
En fait, c'est le 5000 installations sceptiques dans le bassin.
Oui, c'est ça. 5000.
Oui, puis c'est pas utilisé comme des chalets, c'est
comme
des
résidences principales
avec des grosses familles.
N'oubliez pas, là, le station de Stoneham, c'est plus que la population de Stoneham. Une fin de semaine.
C'est terrible. Au niveau environnemental, le centre de ski Stoneham, c'est terrible. Il cache plein d'affaires, c'est terrible.
Puis, dans le noir, j'espère que la population de Stoneham, fin de semaine, c'est qu'elle vient pour mariage.
Oui, tout à fait.
Ça fait partie de. Parce que puis souvent, c'est l'hiver. La capacité d'épuration n'est pas la même.
Non.
Alors, que ce soit les champs d'épuration, l'hiver, du tout bien, c'est en dormance. Là. Fait que, ça fonctionne. Parce que. C'est... Oui.
Non. C'est par rapport à la subvention, tu sais, que la TVQ,
le
40 millions, mais ça va servir juste à remplacer les...
Ben, en fait, là, la subvention est pour le remplacement de fosses septiques de plus de 30 ans. Ils vont prioriser ceux qui ont plus de 30 ans et qui polluent. Puis, il va y avoir des critères là, d'admissibilité. Nous, la galère, étant donné qu'on n'avait pas beaucoup, on voulait quand même participer, c'est pas parce qu'on n'a pas, d'intervention. Puis, il y a aussi un volet du programme qui va être pour les infrastructures d'est, qu'on appelle justement pour des types de projets dont je vous parle, des cellules de biorétention dans les stationnements, la conduite qui va mener au système de filtration pour contrôler les sédiments. Fait que c'est aussi, puis ceux qui vont vouloir changer leur fosse septique sur du rocher, ils vont pouvoir le faire. Fait qu'on a parlé fort là, pour qu'on n'oublie pas la galère, parce que souvent, c'est ça qui arrive, les petites municipalités, on est tout fait comme oubliés. Là. Politiquement, il faut être inclus parce qu'on est de la versant, mais on dirait qu'eux autres, c'est pas grave, la galère. Le Stoneham, c'est beaucoup pire, et tout l'argent va aller là. Mais en même temps, c'est pas de notre faute à nous que Stoneham soit pire. Nous, on veut quand même faire des choses, puis avancer, puis on va être capable de mettre un peu de sous de façon progressive. Puis ça, c'était quelque chose qui a été débattu, qui a été bien reçu du politique. Puis c'était retenu. Fait que le programme est fait là, pour investir aussi dans les infrastructures vertes et permettre aux gens du rocher qui voudront faire leur changement de force pour un système qui sera plus performant, vont pouvoir le faire. Fait que ça, c'est la bonne nouvelle, là, dans le fond. Mais c'est sûr qu'ils vont prioriser les dossiers qui sont plus urgents. Mais je ne vous dis pas que ça va être zéro l'agrelage, au contraire. Là, sinon, on n'aurait pas signé l'entente. T'sais, tant qu'à faire partie d'une entente juste pour paraître dans les journaux et dire qu'on fait quoi, ça ne nous intéressait pas. Là. On veut quand même, tu sais, que les projets se réalisent ici. On en a, puis c'est préoccupant. Puis je pense que le comité, là, l'ensemble, la Ville de Québec est très conscient qu'il va falloir qu'il y ait des choses de fait là, en haut bas de la montagne.
Et puis le projet est débutant l'année prochaine?
Bien, écoute, là, ils sont en train de définir tous les critères d'admissibilité pour le projet, mais ça va probablement le septembre-octobre de l'année prochaine, là, vous allez voir des parutions.
Encore une fois.
Oui. Je vous souhaite, mais c'est des grosses machines, ça dépasse un dissent de la Ville de Québec. Là. Je me suis aperçu que c'est long, puis c'est des paquebots. Là. Fait que, il y a beaucoup de départements, il y a le contentieux. Il faut toujours que ça passe au contentieux.
Rien
que
pour vous dire, quand on était au cœur de ce dossier-là, où j'étais au cœur, les travaux publics, ils se disaient, nous, on s'en fout de l'eau polluée, on a une usine qui est capable de faire. Il y avait un débat à l'interne. Parce que l'autre, elle a mieux prendre des millions pour refaire les conduites qui coulent en centre-ville. Donc, dans une grosse administration, il y a des petites galères qui se jouent. Puis la vision globale, ben, ils ne l'ont pas tous. Là.
Non, c'est ça. Ils n'ont pas tous les mêmes
priorités. Exactement.
Puis tout le monde veut de l'argent dans sa cour.
Absolument.
Ah, ben là, nous autres, on est bien pire que l'autre, puis l'autre, puis là, ça ne finit plus. Fait que, tu sais, on a essayé de crier haut et fort, on a tenu notre bout, puis je pense qu'on a fait une entente qui est respectable. Maintenant, on va le tenir encore sur les critères, on siège, René, et sur le comité là, pour dé-
pour déterminer. Même si on est une petite équipe, ben ça ne veut pas dire qu'on n'est pas au courant de nos dossiers. T'sais, on ne laisse pas aller les groupes pour nous dire, ben finalement, la galache, on s'y parle pas, on ne s'en occupera pas, parce que c'est souvent ça, politiquement, il faut quand même dire notre place, qu'on est là, qu'on a des choses à faire. Mais moi, je pense que c'est bien reçu, puis on travaille en très bonne collaboration actuellement avec la Ville de Québec et la Ville de Saumur. Là, on n'a pas de...
Là, je vais peut-être introduire Siano. Oui. Le premier cas de Siano déclaré officiellement au Québec avec tout ça, c'est nous qui l'avons fait à l'appel à l'époque. Je travaillais à la sécurité publique au bureau de Sous-Ménis. Puis un bon matin, Mélanie Deslongchamps m'appelle, elle dit on a vu de la Siano, on a ramassé de la Siano.
Qu'est-ce que
de la Siano? Bon, on va l'expliquer un peu. Alors, j'ai dit, ramassons deux gros pots maçons. Je suis parti tout de suite avec ça, je suis allé au bureau du service d'environnement à l'époque du ministère de la Ville de Québec. J'ai mis ça sur le bureau, j'ai dit ça, on a ça dans le lac à matin. Puis je suis comme responsable à la sécurité publique, je vais aussi annoncer la chose au gouvernement. Et là, évidemment, ils ont su que c'est l'eau de la Saint-Charles qui alimente le Parlement. Et ça a fait une traîne de poudre, OK? Il y a eu un gros truc. Et tout de suite, la Ville de Québec a investi 19 millions pour mettre au nord son usine pour être capable de filtrer les cyanobactéries à Châteaudun. Alors, des fois, ce n'est pas anodin des choses. C'est pour introduire le dossier
cyanobactéries. Qu'est-ce qu'une cyanobactérie? C'est une bonne question. Très souvent, quand on parle de plantes, voilà, on entend souvent le mot arbre, on entend souvent le mot plante, mais c'est vraiment des mots qui ne disent pas vraiment la même chose. Une plante, comme par exemple le bouquet d'épi, ça a vraiment une tige avec des feuilles, des fois des fleurs, et un système racinaire qui va très souvent être dans le fond, à part ajouter des plantes flottes, comme les mélifères, mais non, souvent ça va ressembler à ça. Mais à côté, il y a des algues. Les algues, elles peuvent être microscopiques ou macroscopiques, mais dans l'ensemble, c'est la même chose, c'est un amas de cellules. Vous avez des algues qui vont juste être plein de petits points dans l'eau qui sont indéniablement invisibles, mais quand il y a vraiment des milliards, vous les voyez, ça fait vraiment des sortes de. Comme plein de petits points dans l'eau finalement.
Une soupe.
Hein?
Comme une soupe.
Comme une soupe, exactement. Comme une soupe de.
Soupe de légumes.
Exactement.
Ou
alors ça peut faire des filaments qui vont être, je t'ai dit, un long filament assez long. Ça, ce sont vraiment des algues. Et les cyanobactéries, ben, c'est plus dans cette catégorie-là qu'on va les trouver. C'est une forme d'algue qui sont, comme vous voyez, c'est plus des bactéries dans les plantes, c'est vraiment des bactéries, et qui ont tendance à, quand les conditions sont réunies, à savoir quoi comme conditions, c'est pas de vent, qui fait chaud, l'eau est chaude, et il y a beaucoup de nutriments, elles vont exploser. Elles vont se reproduire vraiment en masse, d'une manière vraiment exponentielle. Et tout d'un coup, vous allez avoir votre belle eau cristalline, puis d'un coup, elle est bleuâtre, brunâtre, rougeâtre, verdâtre, dépendamment de l'espèce de cyanobactérie qui est présente. Non, c'est pas beau, ça pue. Mais le plus important, c'est que ça fait des toxines. Ils sont vraiment dangereuses pour la santé humaine ou celle de la faune. Je ne sais plus dans quel pays encore récemment, mais il y a quelques semaines, les chiens qui sont morts à cause, parce qu'ils ont été baignés dans un lac qui était rempli de cyanobactéries. Et c'est vraiment un enjeu de santé publique, surtout quand on parle effectivement de lacs comme le lac Saint-Charles, qui alimente une ville de quand même 300 000 habitants en termes d'eau potable, c'est vraiment beaucoup. Donc c'est un risque vraiment de, ok très bien, parce que c'est beau de faire un filtre à la cyanobactérie, mais les cyanobactéries sont captées, mais pas les techniques des produits par exemple. Et encore maintenant aujourd'hui, on ne connaît pas vraiment la présence d'oxyde dans l'eau qui alimente la ville de Québec, parce qu'il y a peu de tests qui existent pour vraiment tester la présence d'oxyde dans l'eau potable. Donc, en gros, tout ça pour dire, cyanobactéries, on ne veut pas en avoir. Je mentionnais effectivement le mafus, c'est la grippe, c'est la bactérie, c'est le choléra. Là, vous comprenez, lui, ce n'est pas un risque pour votre santé, lui, ça l'est. Ils font plusieurs toxines, il y a des toxines vraiment qui, quand vous avez décidé de les boire à l'eau, ça pourrait vraiment affecter votre foie ou votre cerveau. Il y a également des toxines qui vont juste créer des gros roches sur votre peau, vous allez avoir des réactions allergiques par rapport à ça. Tout ça pour dire, quand vous avez ça, pas vous baigner, pas boire l'eau, y compris pour vos chiens, vos animaux de compagnie, ne les laissez pas aller près quand ça arrive. Pour l'instant, lac de l'âge, on n'en a pas vu, en tout cas pas depuis les années 80, si je comprends François.
Dieu merci.
Et la bonne nouvelle aussi, c'est que les teneurs en phosphore et azote sont relativement basses, encore maintenant au lac de l'âge. Elles augmentent, mais elles restent encore trop basse, je pense, pour vraiment avoir des gros blooms comme on peut l'avoir au lac Saint-Charles. Cependant, ça reste à surveiller. Et encore plus à surveiller effectivement dans ce contexte, on revient de inversion de courant à l'exutoire. On pourrait très bien avoir de l'eau chargée en bactéries qui serait amenée de la rive nord jusqu'au lac de l'Age. Mais de manière générale, la bonne nouvelle reste quand même bonne. En plus, là, c'est l'aspect, on va dire, cousu d'avoir un lac qui est quand même profond. C'est que justement, il est profond, ce qui fait que l'eau ici, elle est quand même plutôt froide. Et de nouveau, les bactéries, ils aiment avoir l'eau chaude pour vraiment se produire en masse.
Oui. Ce qui explique souvent, c'est pas tout le lac qui est envahi par des cyanobactéries.
Non,
souvent dans les fondées, dans des endroits très bien localisés. Alors, comme au lac Saint-Charles, hein, souvent c'est la baie de l'Écho, je crois. C'est une place favorable à cause des vents dominants qui posent toutes les.
Exactement.
Et fait que c'est ça. Là.
Moi, je voulais juste une question. Est-ce qu'il y a eu des tests qui ont été faits à la sortie dernièrement?
Pour les élèves?
Oui.
Oui. Ça n'a jamais été fait des couleurs, malheureusement. Donc, pour l'instant, on n'a toujours pas trouvé ces bulles la plus première à s'adapter pour le lac Saint-Charles. Il a seulement existé, on n'a jamais réussi à la localiser.
OK. Parce que c'est sûr qu'il y a une entrée à quelque part.
Oui, mais en fait, les cyanobactéries, elles sont partout.
Ouais.
Mais c'est juste qu'il y a sûrement un endroit, un spot, où les conditions sont très favorables pour qu'elles se reproduisent en masse. Hein. Parce que vraiment, des cyanobactéries, vous allez avoir dans toutes les eaux du monde, même en Arctique, en partout, vous allez en trouver.
En fait, c'est la première forme de vie sur Terre.
Ouais, c'est ça. C'est la première forme de vie.
Il y en a beaucoup.
C'est le moment où ce qui se développe, c'est qu'il ne faut pas créer ça.
C'est qu'il y a un spot à un moment donné, les vents, les courants, les éléments nutritifs s'accumulent dans une zone plus calme, l'eau est
profonde,
c'est chaud, pouf.
Exactement. Ben, effectivement, si vous voulez, c'est un peu comme les insectes. Il y en a partout, c'est normal, mais on peut en avoir des millions dans la maison.
C'est ce qui est arrivé au lac Saint-Joseph cet été?
Lac Saint-Joseph, c'était, j'ai pas réussi à dire que c'était Lac Saint-Joseph, mais
j'ai des gros semble-t-il.
Ça, c'est encore
pire.
C'est
des
gros septiques. Ok. Ça va super.
C'est qui dans le siècle de la vie?
Oui, parce qu'ils sont tous sur gros
septiques. Oui, c'est ça.
Ok. Non, excusez-moi, on va parler du Nord, quand ça va bien, quand
ça va bien. C'est pas tout négatif, quand même.
Non, pas tout. Mais n'empêche que ça reste, je pense, important de surveiller. Donc, si jamais un jour vous voyez quelque chose que vous ne savez pas ce que c'est, ça ressemble un peu à une soupe de poils. N'hésitez pas à nous faire un appel pour qu'on vienne voir et qu'on nous valide si c'est des bactéries ou autre chose. On espère que ce sera autre chose.
Le ministère de l'Environnement avait mis une escouade. Mme Beauchamp, ministre de l'Environnement, suite à notre avis, avait fait un gros truc sur les algues bleuettes. Hein? Et puis, à un moment donné, elle a annoncé qu'elle avait augmenté les effectifs de 150%. Alors, il était passé de 1 à 3. Puis, depuis, je pense qu'il n'y a plus personne qui s'occupe de ça au ministère de
l'Environnement.
C'est hallucinant.
Il n'y a pas de temps.
Ah, regarde.
Non, en fait, c'est pas qu'ils n'ont pas de temps, c'est qu'en fait, il y a tellement de lacs qui sont affectés que.
Ils en parlent, c'est ça.
Ils
n'en
parlent plus.
C'est trop.
Et d'ailleurs, ça peut être un bon lien vers un point que vous avez abordé tantôt, qui est la science citoyenne. Pour le coup, on encourage toujours les riverains, les citoyens, à effectivement créer des comités. Il est vraiment lié à la santé du lac, pour justement, ça peut être un des critères à observer, justement, les bactéries, est-ce qu'on en voit ou pas. Donc, si jamais ça vous avez un intérêt, effectivement, à vous regrouper ensemble pour créer un groupe de citoyens, finalement, pour votre lac, et qui comporterait une sorte de brigade cyanobactéries, ou brigade également, pour sensibiliser les citoyens à. Laver les embarcations, arrêter les embarcations, et aussi inspecter visuellement si vous voyez quelque chose de bas votre lac, le signaler. Ça peut être amené effectivement par cet aspect-là.
Est-ce que je me trompe, au laboratoire de la Ville de Québec, le laboratoire d'eau, ils ont développé une expertise pour les reconnaître très rapidement?
Oui. Ben, rapidement, je n'irai pas jusque-là, mais ils peuvent identifier les espèces présentes.
Est-ce que ça ne serait pas intéressant lors des gros événements, là, etc., là, quand ils font de la baignade et autres? Qui fait chaud, tout ça.
Ben, nous, on est sur le programme de
l'ARSDH. Je ne pense pas qu'ils.
Mais ils font pas ça. On pourrait peut-être voir avec eux s'ils ne peuvent pas se concentrer plus de.
Comme l'été prochain, peut-être prendre plus de.
D'échantillons.
Parce que je vous dirais qu'en rien, mais peut-être pas.
Parce qu'en surface, hein.
Oui, c'est ça.
Parce qu'à Québec, là, ils ont vraiment développé.
Parce que c'est une expertise quand même qui est pas très bonne et qui s'appelle très cher.
Parce que là, aussi, faire un tour du lac
faut que les gens qui soient capables d'avoir une mission de formation pour que
je dise. Ben moi, je pense que ce qu'on pourrait faire, là, mettons, dans notre journal local, demander s'il y a des gens qui sont intéressés. Là, je vois que toi, tu es biologiste, il y a des gens quand même qui s'y connaissent bien, qui sont souvent sur le lac. Ben on pourrait former comme une petite brigade du lac, appelons-le comme on veut, mais qui pourrait être formée, mettons, par Agiro, puis que nous, on coordonnerait pour que. Ensemble, ces gens-là puissent alerter ou venir nous voir quand il y a quelque chose, parce qu'évidemment, nous autres, avec deux emplois, trois emplois de travaux publics, tout ça, on n'a pas le temps, tout le temps, on n'est pas toujours sur le lac. Fait que ça pourrait être quelque chose qui pourrait être.
C'est quelque chose qui arrive. Là,
puis le grand Manitou sera François, qui gère pas la plus grande du lac. on a la chance d'avoir des gens qui se connaissent.
François, le lundi matin, les congrès sur ça,
on pourrait croire que c'est
justement, on a justement des prises à.
Le planche à gaz, mais je pense que ça pourrait être une belle éducation citoyenne. Et en même temps, nous, ça nous permettrait de le suivre. Puis dès qu'il y a quelque chose, on pourrait faire venir à Géro des gens du personnel qualifié là, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'alarme.
Mais c'est sûr que nous, si nous appelons, on vient avec plaisir là, parce que. Mais vraiment nos yeux, finalement, sur le lac de l'air.
C'est ça, on va faire des yeux sur le lac.
On va dessiner le poisson, mais c'est sûr qu'on va faire des choses. Par contre, vous êtes à tous les jours. Donc, c'est sûr que nous, ça nous aide beaucoup d'avoir finalement d'avoir les choses qui sont en dehors de notre vision. On est en train de savoir. Oui.
C'est pour continuer là-dessus. Je sais que les diagnoses, c'est quoi? C'est aux 5 ans?
C'est ça.
Moi, en tant que biologiste aussi, j'ai comme une vision à
l'enfant.
Non, mais tu sais, de science citoyenne, mais tu sais, qui s'implique justement dans une diagnose, mais pas aux 5 ans, mais tu sais, qui récolte des données à chaque été, à chaque automne, tu sais, un truc comme ça. Je ne sais pas si ça a déjà existé ou si.
Ben, il y a le résultat qui fait chaque année, je pense.
Ouais, ça fait plusieurs années qu'on.
Ça, il est disponible sur le site, là, tu sais, toutes les
cas. On prend la transparence, on prend les échantillons. Là, cette année, c'est la transparence, on fait avec les semaines, puis là, il y a eu quelques valeurs au niveau des dossiers, tout ça, fait que. On s'est ramassé une fois.
Mais ça serait fait par des gens.
Oui, c'est ça, exactement. Tu sais, comme l'année prochaine, on pourrait commencer la transparence à toutes les semaines, puis faire un tour de canon. Ça paraît pas, mais c'est 3 heures. Fait que, tu sais, quand on est 2 et 3, on oublie 3 heures, on a beaucoup de travaux. Fait que, s'il y a des gens qui pourraient s'impliquer, surtout avec des connaissances, ça serait merveilleux.
Oui, puis ça, bien, plus on donne des données à RSVL, bien, plus eux autres, les résultats, puis les diagrammes, tout ça, sont plus efficaces. Puis nous, ça nous permet d'avoir un rapport plus vrai. Puis comme tu dis, aux 5 ans, ça n'a pas d'allure. C'est pour ça qu'on embarque dans des programmes comme ça qui nous permettent de suivre de l'air. Mais effectivement, plus on a de tests, mieux c'est au niveau des résultats. Ça fait que ça, c'est intéressant. Ça, en tout cas, moi, j'ai noté là, beaucoup de points. Là, puis la Brigade du Lac, je retiens ça. Puis je retiens aussi, là, avec RSVL, voir c'est quoi les possibilités de. Si, mettons, c'est quoi plus pour eux, puis combien ils peuvent traiter les données, tout ça.
Si on pourrait avoir un rang de police de même, de surveillant, c'est qu'il y a des endroits où il y a des canards qui sont
bien.
Et cette année, au début de l'été, on a averti des gens qui venaient
nourrir ce canard.
Ils n'allaient pas là, ils étaient rendus dans. Tu sais, allez vous former sur le lac, pas dans les fougères. Tu sais, il y avait plein de petits canards là, c'est ce qui était tout petit là. Moi, j'ai vraiment. Ça vient me chercher. Fait que,
s'il y a des gens qui sont concernés, ils disent écoutez, là, nous autres, on a encore le lac, sais-tu que ce que tu fais là, ça n'a pas dérangé.
On va mettre une petite pancarte, comme on parlait pour le biophile. Là, on va mettre défense, parce que là,
l'éducation.
Si Ben Prince, il disait que les canards sont rares, qui viennent là, exactement.
Mais
là, on a un problème de la maïs. Ils sont
Oui, c'est ça, ça a été.
En tout cas, c'est le genre de problème que la Bruyère pourrait s'occuper avec vous pour voir des solutions. Puis des fois, il y en a des solutions. Il s'agit juste d'essayer de voir les fixes. Puis tout ça, parce qu'il y en a beaucoup plus parce qu'on a vu le nombre de propos là, de Bernache au manoir. Puis c'était assez impressionnant. Là.
Ben, il y en a d'autres qui vont s'en
occuper. On va amener le renard pour laisser le collier.
Il y a des bons livres de recettes aussi avec Bernache.
Ouais, on pourrait peut-être aussi enrayer les abrasifs sur du rocher. Il y a des places où tu peux dire que c'est de l'abrasif qui est dans le lac. On pourrait peut-être faire un genre de fosse, hein, une fosse, là, un trou carrément qui serait nettoyable. Je ne dis pas là, un truc là, qui coûte 100 000
$. C'est pas un secteur qui coûte 120 000.
Non, non. Je pourrais te donner, c'est ce que je faisais au transport.
Ok.
Quand tu mets de l'abrasif sur la route, sur du
rocher. Le
lac?
Oui.
Ou tu penses que ça se ramasse?
Ben,
hein, là. Alors, ça serait simple à faire. Là. Simple et avec un truc là, qui serait facile à vider là, rapidement. Comme un bizarre, mais un bizarre ouvert. Parce que là, à côté de je ne sais pas quel numéro, là, il y a une plage.
Parce
qu'on
avait des filets.
Moi, mais c'est pas le mat, ces filets-là.
Moi, mais c'est pas là, au moins.
Mais pour te donner un petit schéma, je faisais ça au transport.
Il coûte pas cher.
Pour le lac de l'âge, ça veut dire effectivement que la politique mise en place pour limiter les pendages de sel, finalement, elle fonctionne, elle est respectée. Cependant, les valeurs sont quand même plus élevées qu'en milieu naturel, ce n'est pas tellement surprenant, mais en milieu urbain. Mais on a quand même des valeurs qui laissent suggérer qu'il y a probablement quand même encore des citoyens qui utilisent des sels de voirie sur leur terrain privé pour mettre sur leur cours, sur leur entrée de garage, etc. Et donc là, c'est plus de nous sensibiliser les gens pardon, par rapport à ça. Les valeurs sont acceptables, mais elles sont quand même encore trop importantes par rapport à ce qu'elles devraient être.
Mais je te dirais que j'ai beaucoup de celles
de Warwick
qui arrivaient de la route numérotée.
Oui,
parce que l'MTQ, le tour pas loin, puis la rivière non.
Là, je parle vraiment plus de. Parce qu'effectivement, il y a ce qui est apporté effectivement par l'aéron, mais même les tributaires pris individuellement qui s'attendent à la ville. Ils ont aussi des valeurs qui sont un peu trop élevées que ce qu'elles
ont. Ok, sûr, vous les avez mesurées au bord de chez
toi. Combien
il y a eu de prélèvements juste pour le fond? C'est pas beaucoup.
Hein, pour vous dire, le lac Clément, pour donner un exemple dans le bassin, le lac Clément il est tellement salé, je ne sais pas pour implanter de la morue, donc c'est blague, mais le lac Clément qui est sur le bord de l'autoroute, il reçoit tous les eaux de Saline.
L'eau de l'autoroute.
Et le niveau dans sa. De salinité, là, je ne sais plus c'est quoi le taux.
Ben,
il
y a 6
ans. Pour mettre au tableau,
c'est vraiment quelque chose de. Enfin, il y a des gros problèmes.
Ça va devenir un océan.
Hein?
Ça va devenir un océan.
Oh, peut-être pas un océan, mais.
La porte de l'eau du bouffleur, finalement, de plus en plus.
C'est pas l'eau marine, là, mais quand même, c'est très, très salé. Là, puis, il y a toutes sortes de problèmes environnementaux. On l'appelle la clé.
Mais c'est pas alarmant, mais il faut s'en préoccuper.
Oui, en fait, de manière générale, là, c'est.
C'est juste
de nouveau. Si on vient à la santé générale du lac, après tout ce qu'on a parlé, comment on voit le lac de l'âge finalement? Ben, je dirais qu'il va relativement bien, mais il ne va pas dans la bonne direction. C'est ça mon point. C'est qu'en gros, si je vais faire une évolution, on va dire, avec la première diagnose, qui je crois date de 1980, si je me rappelle bien, à aujourd'hui, finalement, c'est beaucoup, c'est 2022 qu'on a fait, c'est que le lac va mieux qu'en 80. Il y a vraiment des choses qui ont été dans le lac qui ont aidé à le protéger. Si on prend la transparence de l'eau, elle était vraiment très très mauvaise en 80. Elle s'est vraiment améliorée jusque 2012 à peu près. Mais là, ce qu'on voit maintenant, c'est qu'elle est en train tout doucement de rebaisser. Donc ça veut dire que, en gros, on a eu pendant 30 ans une vraie bouffée d'oxygène pour le lac, ça allait vraiment mieux. Depuis quelques années, niveau où on est tranquillement pas vite en train de redescendre vers le bas. Un rythme vraiment très lent, beaucoup moins soutenu que c'était à l'époque où c'était très loin dans les 80, mais il n'empêche, on ne va pas dans la même direction. Ça veut dire que. Oui?
La cassure, là, on parle de la transparence de l'eau, est-ce que la cassure dans le temps est la même pour tous les paramètres que vous suivez?
Transparent, c'est plus visible. En fait, c'est sûr que les 80, malheureusement, ils ne mesuraient pas grand-chose. Donc, transparence, c'est quasiment la seule qui était mesurée. Donc, c'est là que je prends la transparence. Par exemple, le nutriment, les phosphores, je ne sais pas ce qu'il y avait dans les 80. Mais si on prend le cas du phosphore, on est depuis les années, mettons, 2000, je crois que la première, c'est 2008, je pense, c'était la fameuse. Enquête Lindo. Ben, là, pour le coup, c'est on est plus augmentation constante, tranquillement, pas vite. Puis entre 2007 et 2022, là on a une petite montée un peu plus soutenue. Donc il y a clairement au cours des 5-10 dernières années des changements dans le bassin versant qui font qu'on est parti dans la mauvaise direction. Est-ce que c'est davantage de personnes? Est-ce que c'est davantage de pression due aux eaux usées? Est-ce que c'est davantage de pression due à l'érosion du sol? Est-ce que c'est davantage de pression due aux eaux pluviales ou au fait que les pluies intenses sont tellement plus fortes que ça draine beaucoup plus et que ça lessive beaucoup plus les sols? Est-ce que c'est davantage d'activité intensive dans le bassin versant à ce moment-là, certains spots? Est-ce que c'est le fait que c'est les eaux de l'Aïron qui remontent dans le lac plus fréquemment? C'est probablement tout ça mis ensemble. Mm-hmm. Il y a quelque chose qui fait que malheureusement, pour l'instant, depuis 5 ans, le lac, il est encore en santé, mais il est reparti dans la mauvaise direction comparé à ce qu'il était il y a 20 ans, 30 ans.
Il y a eu beaucoup de développement immobilier aussi.
Ouais. Mm-hmm. Ben là, par exemple, en 80, c'était vraiment très mauvais, je pense, que justement, le développement immobilier à l'aiguelage. On est passé de un lac où il n'y avait quasiment rien à quand même une ville finalement de plusieurs centaines d'habitants. Mais clairement maintenant là c'est ça. C'est vraiment un, c'est à surveiller pour voir comment ça va dans le futur, mais clairement dès maintenant on pense vraiment qu'il y a des mesures à prendre en vue de réinverser la courbe, on va dire ça comme ça. On s'entend bien que le lac de l'Age ne va jamais retourner à un lac aussi beau qu'il était il y a 100 ans, avant l'arrivée de l'être humain, voire avant le développement en tout cas de la formation, c'est sûr que non. Mais si on pouvait arriver à ce qu'il se stabilise et que finalement son taux de dégradation reste neutre, c'est pas qu'il s'améliore, c'est pas qu'il se dégrade, il reste neutre, je serai le plus heureux des autres. Et je pense que vous aussi.
Puis moi j'ai une question, tu sais, mettons on compare avec un lac, mettons, naturel,
oui,
une intervention qui est, mettons, sur le territoire de la CEPAC, puis lui il est beau, est-ce que la tu sais, c'est quoi la différence? Mettons, juste pour voir le vieillissement normal d'un lac, ça se situe à peu près où, mettons, sans intervention humaine, puis avec, tu sais, juste pour qu'on...
C'est une très bonne question. On avait proposé à Sonia de faire un bassin témoin.
OK. Pour juste suivre. Comparer, c'est parce que c'est
mais dans le même climat.
Parce qu'il y a un climat.
Que ce soit la même région.
Un lac, ouais. Ouais.
Mais c'est ça, mais tu sais, il faudrait un lac à peu près la même caractéristique en termes de profondeur.
Ouais, c'est pas facile.
Mais de trouver un bassin témoin, ça serait intéressant. Mais c'est sûr qu'avec les changements climatiques, là. On perd le contrôle de bien des habitants. Parce que, tu sais, même le protocole de 1980 par rapport à Abu Dhabi, on n'étudiait pas les mêmes choses. On n'avait pas les mêmes outils.
Non, puis on
n'était
pas aussi.
Mais quand je regardais la compte tantôt, là, je me disais, ben, il y a eu les bassins d'épuration renouvelés, ça a aidé, la réglementation, ça a aidé, ça a peut-être expliqué déjà une courbe. Mais un événement depuis démentiel, comme on a eu il y a quelques années, là, où il y avait un mètre d'eau dans le stationnement ici, un mètre d'eau.
En 2008.
Ouais, j'étais avec l'ancien travailleur de l'île, puis on poussait les chars pour les sortir de la plaque. Ça, là, tout de suite, ça crée un impact qui, normalement, aurait pris des années à se mesurer, mais là, pouf! Ah, c'était hallucinant, là, cette pluie-là, là. Imaginez ma mère pas d'eau dans le stationnement.
C'est une graphique. Une graphique rapidement.
J'avais été chercher une pince de lait le matin, je rentrais 11h le soir chez nous. Mais là, on a dit, t'es où, t'es où? Ben, je faisais des urgences avec Dodard à l'époque.
C'est sorti, moi, j'aime
bien. On va faire une question.
Oui.
Donc, ici, vous avez donc un lac qui est jeune, qui vient d'être formé. Donc, ça nous donne un lac de l'âge il y a genre 2000 ans, à peu près.
Mm-hmm.
Avec un exemple alternatif, ce serait le lac Clair qui se trouve dans la réserve du Chénet en amont ici.
Mm-hmm.
Et ici, vous avez des lacs qui sont beaucoup plus vieux. Qui sont très maganés à l'activité humaine. J'ai mis l'exemple du lac Saint-Augustin qui est un bon exemple. Si vous voulez voir un lac magané par l'être humain, le lac Saint-Augustin, c'est le meilleur exemple. Il a tout, si vous l'imaginez. Il a tout,
il est
dégueulasse. Ouais, il est vraiment dégueulasse.
Ça n'a pas de bon sens.
Je pense que je pourrais le traverser en taquette.
Il est vraiment sur le lac. Le lac appelle le lac. Il y a des bouts, c'est des
étages. D'ailleurs, il y a un particulier. Je mettrais plus ou moins ici. Mais le lac Duran, lui, la particularité, c'est que le lac Duran, il est très peu profond. Mm-hmm. Ce qui fait qu'il est beaucoup plus fragile aux perturbations qu'il peut avoir dans son bassin versant. Normalement, il est encore correct. C'est C'est juste que lui, il vieillit, mais à une vitesse fulgurante.
À cause de sa profondeur. Ça, ça nous aide beaucoup, oui. Parce que si on n'avait pas de profondeur, ici, ça serait tout catastrophique.
Effectivement. Donc, je vais vous montrer un petit schéma. J'ai mis l'axe central plus ou moins à 30% du vieillissement, on va dire comme ça, c'est à peu près. Hein. Donc, l'axe central, vous voyez que l'annulage est en meilleure santé que l'axe central. L'annulage, je dirais qu'il est plus ou moins à sa moitié de vie. Mais je vais faire un autre schéma qui, je pense, sera encore plus parlant pour vous montrer le message que je vais passer par rapport à ça. Donc, en gros, ça veut dire quoi ? C'est que l'annulage, dans le bassin versant, il a un niveau qui est ni bon ni mauvais, on va dire ça comme ça.
Okay.
Il est moyen. Et il y a pire. Mais, moi, ce que je veux vous montrer, c'est que si je me tente, je tente de replanter la flèche de vie du lac de l'âge, juste du lac de l'âge. Donc, le lac de l'âge, ici, c'était à sa naissance il y a 12 000 ans. Et normalement, le lac de l'âge, au vu de sa forme, au vu de sa profondeur, je peux m'attendre qu'il pourrait vivre, avant d'être complètement colmaté, de faire devenir un marais finalement à la fin de sa vie. Il va se passer.
12 000 ans, c'est la mer de Champoux. Ben, à 10 000 ans. 10 000 ans? 10 000 ans.
10 000 ans.
Ouais, parce que là, on a promis les émotions des sites, les 10 000, mais ça fait 10 000 ans.
Et maintenant que.
Vous savez que la mer de Champlain était montée jusqu'ici.
Ouais.
Maintenant que j'estime que l'acte de l'âge, il sera en fin de vie dans 100 000 ans.
Ah
ben. C'est l'estimation, hein, ça veut dire ce que ça veut. Tout ça pour vous dire que l'acte de l'âge, ben, il vieillit tranquillement, naturellement, et donc, ben, il y a en 1900, mettons, enfin, fin 19e siècle, avant que l'arrivée de l'être humain commence à développer en bassin versant, il était rendu à environ 10-15 ans de sa vie. Il allait bien, il était heureux. Et bien, normalement, il devrait toujours être là aujourd'hui, parce qu'avant, on se rend compte que sur 100 000 ans, un siècle, c'est rien, c'est une seconde pour nous. Et là, l'âge de l'âge, comme vous l'avez entendu, il est passé là. Si je devais faire une estimation, c'est-à-dire que je dirais que l'âge de l'âge, il a genre pris en 100 ans, il a mis genre d'un 10 ou 20 000 ans. Vous montrer, en gros, mon point, c'est que faut pas tellement regarder l'âge de l'âge en comparaison au plan du bassin versant. Il faut vraiment garder en tête, individuellement, est-ce que l'âge de l'âge, à quel point votre présence le fait vieillir de manière vraiment accélérée. Et c'est vraiment arriver à ce que l'âge de l'âge, son vieillissement, devienne toutefois le plus naturel possible, le plus lent possible. On n'arrivera jamais à avoir un vieillissement naturel complet, parce que notre présence va toujours être de manière accélérée. Mais si, au lieu d'y prendre 10 000 ans en 100 ans, il va peut-être prendre 1 000 ans ou 500 ans, bah c'est autant de temps que le lac de l'âge sera de qualité et sera propice pour nous, en tant que citoyens, à l'utiliser de manière agréable et aussi pour les générations futures, évidemment.
Merci.
Bien.
J'ai une question. Je ne veux pas soulever de débat ou polémique, mais le terrain qui est à vendre, vous devez avoir un développement.
J'aimerais. En haut de la rue des Yobos.
Est-ce qu'il va être développé? Ils sont mis pour être développés.
Oui.
Donc, c'est que si quelqu'un l'a fait, il va pas avoir un développement.
Le seul problème, c'est qu'avant la CI 2019, il était possible de construire des jumelures, mais là, c'est plus rentable parce qu'il y aurait pas assez à cause de la superficie des terrains exigés là, pour justement protéger le bassin versant. Fait que. À l'heure actuelle, c'est pour ça qu'il ne se vend pas probablement. C'est pour un promoteur, ce n'est pas intéressant de développer 6 maisons. Là, fait que c'est pour ça que c'est difficile. Nous, ce qu'on avait, on a rencontré le promoteur quand même. Là. C'est sûr qu'on aimerait mieux que ça soit municipalisé parce qu'on contrôlerait qu'est-ce qui pourrait se développer là avec une résidentielle familiale, mais pas beaucoup de terrain. Là, pas beaucoup de... Mais pour le moment, évidemment, c'est le marché. Là, c'est un propriétaire, ce développement-là avait déjà été signé au départ là, lors des phases de développement de ce secteur-là. Mais c'est sûr qu'il est très limité avec le nombre de maisons qui peuvent être construites là-dessus là, en fonction des nouvelles normes de la CI. Fait que ça, bon, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose dans le sens que ça va faire en sorte que ça limite puis ça ne permet pas de faire des trop de développement dans ce secteur-là parce que c'est problématique. Effectivement. Il y avait trop de densification. On était dans l'ère où la densification est à la mode. Là, à ce temps, c'est plus de densification. Fait que, il faut, mais ce développement-là, il avait été pensé dans le cadre des jumelés. Ils ne peuvent plus en faire à cause de nouvelles normes. Fait que c'est ça. C'est pour ça que je vous dis que ça limite. On a eu des projets qui nous ont été présentés, mais au niveau financier, la ville ne met pas d'argent là-dedans. Là. Fait que, faut que tout ça soit le promoteur qui paye. Fait que c'est pas rentable. Là. Faire une rue avec des services. pas beaucoup de maisons, c'est difficile de rentabiliser un développement comme celui-là. Fait que c'est peut-être pour ça qu'il se vend pas. Fait que, écoute, peut-être que le promoteur un jour le cédera pour une pièce, c'est mon grand rêve.
Si vous faites votre brassée de lavage juste avant ou pendant une grosse pluie, ben, il y a de fortes chances que tout soit essuyé assez rapidement quand ça quitte la fosse si jamais votre sol n'est pas assez important. Donc, ça, c'est juste qu'il faut que, qu'il serait bon à sensibiliser de comment.
Et les spas au sel,
ouais,
je veux dire, si tu jettes ça dans la rivière, il faut que je l'ai dans l'acte. Tu sais, je veux dire, il y a des choses importantes qu'il faut garder. Puis ici, les spas sont assez à la mode. Là. Je vous dirais qu'il y en a pas mal, fait qu'il faut faire, on a l'inventaire, fait qu'il faut faire. Sensibiliser les gens. Là, si tu changes à tous les semaines ton spa au sel, c'est sûr qu'à l'impact qu'il y en a sur le territoire, c'est grave. Là,
c'est
on peut dire. Fait qu'il y a plein de. Pour rejoindre. Là, mais ça, je pense qu'avec la brigade et avec le. Tu sais, nous aussi, on a plein d'affaires, mais tu sais, comme je vous dis, on n'a pas un département environnement ici. Là, on est très limité. Puis moi aussi, je suis comptable, je ne suis pas environnementaliste. Fait qu'on essaie de faire avancer les dossiers, mais moi, je pense qu'ensemble, avec une petite brigade,
c'est pour ça que c'est le temps que ça coûte pas cher.
Il y a un autre élément dont tu n'as pas fait mention, mais c'est les produits biomédicaux.
Ouais.
Oui, aussi.
Vous savez, vos grelots sont sur le Prozac certaines fins de semaine. Il y a une chose bizarre. Effectivement, il y a énormément de projets biomédicaux dans les cours. Et c'est un autre
affaire
qui passe fruit dans les usines.
Parce que les gens qui plantent les bulles dans.
Ben en fait, c'est dès que tu urines, tu rejettes toute ta chimio et autres. Et il y en a qui rejettent aussi tous leurs médicaments dans le. Parce que la toilette,
c'est. Oui, d'aller dans la pharmacie.
Ça fait partie du problème parce que je sais qu'on a, à l'époque, on avait fait des reliefs. Puis, au palais. Puis, avec le manoir, là, ça fait fort, hein, au manoir?
Oui, monsieur.
Hein? Ça fait fort. Alors,
on a réparé pas mal de pommes dosées. Donc, c'est tout ce qu'on ramasse au manoir.
Ouais. Ça fait beaucoup pour notre usine d'épuration.
Oui, mais hein? Il apporte des taxes, puis ouais. En même temps, c'est un citoyen.
Non, mais c'est vrai qu'en France, encore,
il faut apprendre à vivre avec, puis il faut qu'il y ait aussi des mesures qui soient prises avec eux, puis on travaille ça. Là. Je ne vous dis pas que c'est toujours facile, ouais. Mais je vous dirais qu'on a des bonnes relations, puis on essaie de travailler ensemble. Puis je pense qu'ils sont conscients aussi ouais. Que c'est important, là, comme là, la végétalisation de leur verge, ils veulent la faire, ils ont fait un beau projet chez Agiro. Moi, je travaille sur un programme de subvention, là, entre autres, je ne sais pas si tu en as parlé, Guillaume, pour qu'ils soient subventionnés à 100%. Là. Fait que, ils vont le faire. Là, mais ça, c'est d'ouvrage, puis c'est du temps, mais toutes des petites affaires comme ça, je pense qu'ils sont prêts à avancer. Faire,
on part de loin. Là, parce que,
on part de loin, oui.
Je me souviens quand j'étais président de la PES, il y a une discussion avec le manoir. Là,
oui,
oui. Et c'est une fin de l'on recevoir. Mm-hmm.
Moi, je sais que naturellement, puis le prix aussi, là, les prix sont rendus exorbitants. Fait que je pense que les gens se sont rendus compte que peut-être que c'est moins environnemental parce que les jeunes sont plus sensibilisés encore. Fait que on a confiance que sans l'interdiction, ça va devenir de moins en moins populaire. Mais l'interdire, il faut encore être capable de l'appliquer. Puis le problème, c'est toujours ça, c'est qu'on n'a pas de monde pour appliquer, on n'a pas de police des pétards, puis là, quelqu'un va nous appeler. Puis, c'est
non, mais là, c'est, il faut que ça monte plus haut, il faut que les gouvernements... Non,
mais moi, je pense que c'est juste que le manoir, non, mais le manoir a juste à l'intérieur, dans le fond.
Ouais.
Le manoir,
je veux dire, il y a le lac Saint-Charles, là. Hey, là-bas, là, des pétards, il y en a.
Ouais, sauf que le manoir, on s'occupe de notre carreau, là. C'est sûr qu'on ne gérera pas le lac Saint-Charles.
Non, mais c'est le même bassin d'eau.
Oui.
Fait que si la ville de Québec se pose positionne.
Mais si on attend que l'ensemble se positionne, que la ville de Québec se positionne, je te dis, ça va être comme un raccordement. Là,
ce sera encore de la sensibilisation.
Oui, puis le manoir, là, on en a parlé, puis de plus en plus, ils incitent leurs clients à aller vers d'autres choses parce que c'est moins. Oui, c'est ça. Fait que ça, je pense qu'ils font un travail quand ils rencontrent leurs clients pour planifier des mariages et leur disent. Puis de plus en plus, je vous dirais là, que 50%, il y a eu une baisse quand même. Là, ici, il y en avait graduellement avant, là, toutes les fins de semaine. Mais là, ça, là, c'est beaucoup moins populaire. Puis si le manoir incite leurs clients, tu sais, je pense pas que la personne va dire là, je ne me marie pas ici. Moi, j'y tiens absolument, ça ne sera pas ça. Mais s'ils sont capables de proposer une autre formule, ben je pense que c'est. Et bon, excusez.
Une question que j'avais par rapport à la part de phosphore ou nutriments, quand il y a une inversion du début de la décharge, est-ce qu'on pourrait fermer le rejet de nos bassins à ce moment-là?
Ça a déjà été pensé, mais on a la loi sur la protection des eaux navigables. Premièrement, ça demanderait un méchant CA. Mais mettre un clapet, oui, on a déjà proposé ça à la ville à l'époque.
Des fois, possible, l'inversion se fait quand il y a énormément de pluie, ça fait que j'imagine que les bassins doivent
pas se
Ça peut se faire, si on a beaucoup de pluie, la rétention des toits, on pourrait peut-être en prendre un peu. Est-ce que ça pourrait monter le niveau puis aller chercher d'autres nutriments qui sont dans les pentes. Après ça, on a des bassins qui sont là, les deux lieux. On voulait en récupérer un maintenant pour faire une autre décantation au lieu de 51 jours.
Mais ça nécessite une étude. Ça,
une étude, là, ça nécessite 100 000 inclus. Du coup, c'est beaucoup de. Fait que tout ça fait qu'on.
Parce que c'était 100 000 de les rendre étanches, parce que c'est ce qu'on avait pensé, ouais. D'envoyer trop plein dans les bassins qui ne servent pas, mais il fallait les rendre étanches. Fait que là, il fallait investir 100 000 $ pour l'étanchéité. C'est pas beaucoup, 100 000 pour sauver la planète, là, mais c'est pas juste ça que ça prend. Fait que ça demandait quand même une étude assez. Mais ça pourrait être un genre de projet qui soit soumis.
Si on avait proposé à un moment donné, parce que tu avais fait une proposition à la ville, c'est de prendre l'exutoire des bassins et les tirer dans les marais.
Oui, oui.
Plutôt de les rejeter directement dans l'air, de les envoyer dans la partie très marécageuse qui, là, aurait un rôle d'épuration naturelle.
Là, on rallonge l'épuration. Oui.
Absolument.
Échanger les exutoires, c'est
pas merci.
Mais là, on
monte
là en même temps.
Oui, mais au moins, la végétation absorbe les nutriments. Plutôt que de tirer ça directement dans l'air. Mais encore une fois, c'est jamais en bas de 100 000, ces affaires-là. Avec un ingénieur qui va passer à la patente, comme là. Installer le tuyau, mais il va charger son 150
000.
On peut pas d'inventer ça. Ça me dit, ma frère, même des gros yeux, on s'en va avec la bébite, puis on fait.
On s'est assuré dans les premières années, je pense que tu étais au courant, tu savais déjà, on n'a rien inventé, on avait pensé à ça, tout ça. Mais effectivement, là, ça prend beaucoup de monde à venir, là, il faut décaisser des sous. Ben,
Et
là, en plus, ben, les ingénieurs et les environnementalistes, ben, là, ça peut se faire. Est-ce que ça peut se faire?
Oui, mais moi, je pense qu'il faudrait présenter dans un projet. C'est sûr que tout se fait. Puis, tu sais, monter des projets au ministère de l'Environnement comme celui qu'on a fait ici, là, de juste les cellules, là, je vous dis, là, c'est des protocoles d'entente assez importants, c'est beaucoup d'ouvrages, mais on le fait. On le fait, mais il ne faut pas négliger le fait qu'il faut continuer à entretenir l'ensemble de ce qu'on a aussi. Là. On ne peut pas tout mettre l'argent dans l'environnement. Fait que c'est une question d'équilibre. Mais moi, je pense que c'est des projets qu'il faut qu'on regarde éventuellement. Parce que si on attend un raccordement avec la Ville de Québec, ben, moi, je pense que ça se peut qu'il soit trop tard. C'est malheureux, mais 10 ans pour un lac qui est en pente, là, qui s'en va vers pas le bon bord.
10 ans, c'est optimiste. Si on dit 10 ans de raccorder, je serais très content. Ça pourrait être plus long.
Ça pourrait être 5 ans, maintenant. Ça ne nous tenterait pas.
Exactement.
C'est pour ça qu'il va falloir agir rapidement sur des choses qui donnent de quoi et qui ne coûtent pas une fortune. Mais c'est ce qu'on essaie de faire.
Même l'entretien des bassins, c'est un coût. Cette année, on en a fait un. Puis là, il faut le tenir pour que les algues viennent qu'à pousser trop vite. Fait que là, avec des gens qui aident la Ville de Québec, des contracteurs, on a des nouvelles façons de faire à l'eau chaude. Ah, on va essayer ça. Parce que ces plantes-là, pour percer à toile, puis aussi, il y a toute une gymnastique à faire, un de ce qu'on a déjà. Effectivement, le fermer, ça.
Bon,
Ben moi, je pense que c'est le suivi sur la sédimentation. Je pense que c'est un élément qui devrait faire l'objet d'une préoccupation. Donc, suivre tout ce qui se rejette dans le lac, le débit alluvionnaire qui arrive là, de le mesurer, quitte à mettre des piquettes et le suivre d'une façon précise. On remarque que ça peut se faire par photo-interprétation avec des photos aériennes.
Ouais.
Je regardais les photographies aériennes. On peut voir déjà la progression à chaque année par photographie aérienne, mais ça reste une interprétation.
Puis moi, j'ai des tests pour qu'ils se fassent en porte-pluie.
Ouais.
Il ouais.
Faut vous acheter des imperméables. Non, mais pas par temps sec, parce que ça, c'est pas représentatif.
Bientôt, il y aura une pique de section change justement, sur les ouvrages qui ont été séparés de là. Justement, ça va donner déjà une bonne indication de c'est quoi l'eau qui ruisselle le plus gazon ici, finalement, jusqu'au lac. Il va vraiment bien donner une bonne idée de qu'est-ce qui se passe par son dessus justement dans cette section-ci de la rivière. Je ne sais pas effectivement que c'est important de tirer les mains qui dépèrent davantage quand il pleut.
La semaine dernière, je suis allé pour la pluie. Il y a eu une bonne pluie d'une heure à peu près. Ouais. J'ai pris des photos. Il y avait un immense mare d'eau ici dans le stationnement. Je suis allé à l'arrière de chez moi, j'habite sur pied des ponts. Et des choses qu'on ne voit pas quand il fait beau, mais des véritables ruisseaux qui coulent.
Ouais.
Et,
c'est
le ruisseau-là, quand ça ramasse, c'est toute la matière humide, c'est toute l'eau de surface, les sédiments verts. Puis le lendemain matin, tu vas retourner là, tu dis, oui, il n'y a pas de part, même ça. Mais tout ça, il est déjà rendu en bas. Alors, il faut sortir de partie.
Oui.
La morale, c'est que vous sortez. C'est là que je
Un port, que la porte en bordée, effectivement, c'est les bandes riveraines. Les bandes riveraines, c'est vraiment super important comme une dernière rempart, un bouclier entre le bassin versant et le lac, afin justement que tous les contaminants qui sont bordés quand il pleut soient filtrés une dernière fois, captés avant que ça arrive au lac par les plantes qu'on peut y trouver. Dans le fond, le lac de l'âge, il y a vraiment deux sections pour le préciser. Tu as la côté ouest où les bandes riveraines sont plutôt belles, bien les citoyens ont vraiment des bandes riveraines relativement bonnes. Mais il y a le côté est, au niveau du manoir et au niveau de la rue aussi, de la rue du lac, je pense qu'on
a
vu ça. Où là, pour le coup, malheureusement, la bande riveraine est beaucoup plus problématique. Donc, c'est juste rappeler aux gens qui ont des bonnes riveraines de super, continuer comme ça. Et également à ceux qui, pour le coup, les bandes riveraines, ce n'est pas incroyable de voir certains efforts effectivement à faire pour davantage vitaliser, afin justement que quand ça ruisselle, soit davantage capté, protégé, pour protéger le lac en dernier recours finalement.
Ça se fait dans le stationnement, il me semble, des barres.
Oh,
oui,
ça peut
sortir. Dans le projet initial, des
émissions, trois quarts d'heure de plus.
Il y avait beaucoup d'interventions dans le stationnement. Les propriétaires, ils voulaient tout parce qu'ils perdaient des cases de stationnement. C'est sûr, hein, quand tu veux faire la réparation. Fait que là, on n'a pas réussi, puis on a été obligé de couper le projet, alors que le projet était subventionné, puis il était payé entièrement par la Ville de Québec et la Ville de l'Étalage. Mais tu sais, à un moment donné, on est tributaire des propriétaires qui sont privés. On a pas, l'autre, la crime aussi, c'est que la municipalité ne possède pas beaucoup de terrain. Fait qu'on ne peut pas rien faire de municipal sans s'entendre avec les propriétaires privés. Fait que ça devient plus difficile, mais je ne dis pas qu'on n'y arrivera pas un jour. Mais dans le cadre de ce projet-là, des cellules de rétention, on avait drôlement un beau projet là, qui était pour le stationnement. Mais effectivement, quand vous voulez maximiser, lui, c'est un propriétaire privé, je comprends qu'il y a une business à faire rouler. Mais c'est ça, là. C'est qu'avec le temps, on réussit à faire comprendre des choses, puis ça avance.
Mais
c'est pas facile.
Mais c'est pas incompatible, dans le sens que leur produit d'environnement et faire du business, c'est vraiment pas incompatible.
Oui, c'est ça.
Il faut changer son mindset.
C'est pas rentable pour eux autres, tout de suite.
Évidemment, je pense que ça peut être très rentable, maintenant, aussi, parce que quand tu fais quelque chose
qui est plus naturel,
c'est beaucoup plus beau, ça fait beaucoup plus de gens. Du béton de faire un naturel,
ça aurait été
super
beau.
On a tout essayé, on avait même fait de la photo modélisation là, par l'architecte paysagiste qui était dans le dossier qui coûtait quand même plus de sous, mais si on s'est dit si ça peut réussir à convaincre. Mais tu sais, des beaux stationnements verts avec des cellules de biorétention, il y en existe ailleurs. Là, c'est très beau, puis ça se fait bien, puis ça aurait été une belle place pour le faire ici. Mais là, c'était pas le bon timing, là, probablement qu'il n'était pas prêt à ça, mais peut-être qu'un jour il se devra. Mais est-ce qu'il va falloir qu'il paye au complet, peut-être? Là? Moi, à un moment donné, quand le programme de subvention passe, il faut prendre, là, parce que ça n'arrive pas tout le temps.
Dans
Oui, mais non, non seulement planter, mais il faut vraiment qu'il y ait des systèmes de cellules de bio-rétention là, qui soient faites dans les règles de l'art avec de la rétention d'eau le plus possible, parce que le problème, c'est ça. Il faut retenir les sédiments. Là.
Le problème, c'est qu'on a de l'argile dessus. Oui,
mais c'est ça.
Puis de l'argile est imperméable.
Fait que c'est pour ça que ça colmate ou ça ne boit pas, là, tu sais, le sol.
C'est ça.
En tout cas, à suivre, mais effectivement, il y a matière à amélioration, c'est sûr. Là.
Ça, pour conclure, pour protéger le lac, il y a vraiment deux types d'interventions, le préventif et le curatif. Le préventif, en général, ça coûte de l'argent, mais c'est rien comparé au curatif. Le curatif coûte beaucoup.
Selon, on ne voit pas le curatif quand on présente les dossiers aux gens.
Et en plus, ça coûte beaucoup plus cher, mais en plus, c'est beaucoup moins efficace. On est toujours mieux d'aller dans la prévention, parce que c'est comme pour tout, hein. C'est comme pareil avec la santé humaine. On est mieux de prévenir son cancer que de soigner quand on a le cancer, finalement, c'est exactement le même principe. Et sur préventif, il y a vraiment beaucoup de choses qui peuvent être faites. Donc, mon point, c'est justement qu'il est vraiment mieux de prendre le problème à le corps tant qu'il y a encore bon problème. Parce que dans le lac de l'âge, du coup, sa santé est quand même relativement correcte. Ne pas attendre d'être comme le lac Clément ou le lac Saint-Augustin avant de lever le flac, parce que malheureusement là c'est trop tard.
Même
le lac ou pas. Mais là, bien, ouais.
Je peux pas dire qu'il va bien non plus.
Non,
il va
pas bien.
Et pas sur une pente.
C'est ça. Et même dans la préventif, on parle justement beaucoup de coûts,
oui.
Mais il y a vraiment beaucoup de choses qui doivent être faites, qui vont aider les lacs qui sont à moindre coût, c'est juste un changement de habitude finalement. On a mentionné effectivement les produits qu'on utilise pour faire la lessive ou le ménage, d'avoir une belle dendrée verte, miser au maximum l'utilisation de sel, d'abrasif sur nos routes, nos cours d'entrée privée. Il y a tellement de choses auxquelles on peut agir qui ne coûtent finalement quasiment rien et qui vont vraiment être vraiment positifs pour le lac. Il y a aussi des manières d'aménager également sa cour, au lieu d'avoir du béton, d'avoir une belle plaque de béton, pour avoir à la place une cour. Avec un sol perméable ou d'avoir des bassins qui recoupent, qui récupèrent l'eau de pluie du toit, qui ruissellent afin que tout le monde n'a pas été dans le lac et que votre toit n'est pas à chaque fois lavé avec toute la crasse qui est dans le lac.
D'ailleurs, on va adhérer à un programme de pluie que la ville va payer les participants, les citoyens, ça va coûter juste 25 $, fait tout ce qu'ils en voudront. Je vais le publier dans le prochain de la joie.
C'est tout des bassins de
personnes? Oui.
C'est ça pour dire que sur notre site internet à Giro, on a justement toute une section que faire, comment faire pour protéger son lac. Il y a vraiment plein de possibilités qui existent, qui sont beaucoup peu ou pas dispendieuses. Donc je vous invite effectivement à aller consulter si ça vous intéresse, afin de voir qu'est-ce qu'on peut faire individuellement pour protéger son lac. Et on fait surtout le choses qu'on peut faire à moindre coût.
Vous avez une liste à quelque part des préventions qu'on peut faire?
Des préventions, je vous inviterai à aller sur le site agiro.org. www.agiro.org où vous avez également la diagnose qui sera également disponible si vous voulez vraiment avoir des actions très locales, plus vraiment propres au lac de l'âge. Mais de manière générale, même si les lacs sont tous un peu uniques, les recettes restent les mêmes pour quasiment tous les lacs qui ont le même principe. C'est diminuer maximum le côté imperméable de son terrain, donc il faut le plus perméable avec le plus de sol possible. Et c'est toujours les mêmes conseils, en quelque sorte pour les fosses septiques, que ce soit pour. Le produit de lessive, etc. Les conseils restent les mêmes. Et donc, sur notre site internet, il y a une grosse foire aux questions, justement, à peut-être qu'on peut avoir, toute la connaissance qu'on peut avoir avec ça aussi. Et enfin, si vous avez des questions vraiment individuelles, savoir, j'ai tant que tel produit, vous pouvez nous appeler et nous écrire par courriel. C'est avec plaisir qu'on va vous répondre par rapport à vos questions.
Je regardais juste, moi, si tu sentais que je n'étais pas loin. Je regardais juste si ça fonctionnait.
Ça fonctionnait?
Oui,
c'est
tout
pas bien. C'est bon. On va pas recommencer, de toute façon. Moi, c'est tout ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions ou d'autres choses que vous voulez partager.
C'est intéressant, merci beaucoup.
Merci.